le froid et la fatigue, amortisé par les champs, à la belle des victimes, marchait les partisans.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national, à Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Becquetch avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 5 mars de 18 à 21h, en différé jeudi 6, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85. Par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la Résistance, bonsoir. Nous commençons par le clan de la presse. Alors, autour de cette table, Camille Gallic, honneur aux dames. Bonjour, madame.
Bonsoir.
Victoria, mais qui n'est pas...
qui est membre du clan... Le journaliste.
Presque par cooptation, qui est donc mon bras gauche. Oui, parce que vous êtes à ma gauche.
Eh oui.
Jean Madiran de présent. J'ai pas dit Camille Gallic de Rivarol, bien sûr. Jean Madiran de présent.
Bonjour,
Serge. Jean-Claude Varane de... Quoi déjà? Ah oui, comment ça s'appelle? National Hebdo. J'essaye de le faire rire, mais il n'y a rien à faire. Il est imperturbable.
Bonjour.
Emmanuel Ratier de Faits et Documents.
Bonsoir.
Remarquable lettre confidentielle. Pas si confidentielle que ça, quand même. Bien fait. Donc, il est perdu déjà dans la lecture du pavé de M. Péan et Cohen. Patrick Goffman, du Libre Journal.
Bonsoir Serge de Becquetch et bonsoir aux 600 000 auditeurs de Radio Courtoisie dans le monde entier et au-delà.
Pourquoi, monsieur, vous croyez qu'il y en a qui ne nous écoutent pas ce soir? Il n'y a que la moitié des auditeurs qui nous écouteraient.
Ah, ça y est, on est à 2 millions?
Oh, je pense.
Comme Radio Maria?
Radio. Je sais pas, qu'est-ce que c'est Radio Maria?
Radio Maria.
Ah oui, la radio.
Si vous écoutiez France Inter comme moi à 6 heures du matin, vous seriez affolé. Vous
seriez polonais.
Parce que vous sauriez que la radio ultra-catholique Radio Maria, en Pologne, il y a 6 millions d'auditeurs.
6 millions. Mais moi, je le parle, le polonais. Je ne me contente pas de le comprendre. Je dis dzień dobry.
C'est plutôt une radio catholique, d'ailleurs.
Oui. Bah oui, pourquoi pas.
Et non pas ultra-catholique.
C'est France Inter qui partage la préoccupation de l'épiscopat polonais en nous disant qu'elle est ultra-catholique et que c'est très grave.
Bah, il croit en Dieu, il croit que Jésus-Christ est mort pour nous sauver, ressuscité, donc c'est déjà c'est pas à la limite de l'extrémisme, hein, il faut bien reconnaître. Donc, ce clan de la... Alors, la nouveauté du clan de la presse, c'est que je ne parlerai pas au nom du Libre Journal, parce que finalement j'étais un peu...
Jugé parti.
Voilà, j'étais un peu entre deux chaises. J'avais tendance à monopoliser la parole, ce que je ne ferai pas cette fois-ci, contrairement aux apparences depuis le début de l'émission. Nous nous retrouverons, je crois à peu près tous, sauf peut-être Emmanuel. Je sais pas. Vous venez à Villepreux, à Ville, comment ça s'appelle? C'est pas Villepreux.
Villepreux.
Ou non, vous venez pas. Donc, Camille, vous y serez, vous?
Bien sûr.
Rivarol aura son stand, Jean Madiran aussi. National Hebdo, également. Et le Libre Journal aussi. Alors, qu'est-ce que c'est que Villepreux? Je le rappelle, c'est la journée d'amitié française, organisée par Bernard Anthony, le Centre Charlier, Renaissance catholique et autres lieux découverts à marée basse, avec une journée très intéressante et un dîner qui, à mon avis, sera encore plus intéressant. Je rappelle que le dimanche de carême, on ne jeûne pas.
Non,
on ne fait pas carême.
Et jeûner le dimanche, c'est une hérésie.
C'est une hérésie. On ne sera pas hérésiaque.
C'est un dimanche ou le samedi ?
Le samedi.
Ah ben encore mieux alors. Raison de plus. Raison de plus pour ne pas.
Vous m'avez fait peur.
C'est
un samedi.
C'est samedi. Alors le samedi, on jeûnera.
Bon, enfin, on jeûnera. On sera maigre.
On ripaillera maigre.
Oui. Samedi soir aussi, c'est pas comme. Non, ça commence pas.
Du point de vue gastronomique, les déjeuners collectifs sont en général déjà une pénitence.
c'est très jésuite, ça. Alors, donc, samedi 8 à Villepreux, grande journée d'amitié française, et le soir, un grand dîner avec, comme sait faire Bernard Anthony, beaucoup d'animation, il y aura des chanteurs, il y aura de la musique.
Oui, puis c'est quand même dans le genre dîner collectif, c'est les quand même les relativement plus soignés, oui.
Oui, c'est bien.
Très attentif.
Surtout que Villepreux, c'est un endroit.
Mais la collectivité, vous savez, ça.
Oui, vous n'êtes pas collectiviste.
Elle peut être conviviale, mais la gastronomie est absente.
Donc,
et il y aura la remise du prix
Charlier, dont le destinataire restera inconnu jusqu'au dernier moment.
Ah, comme il se doit.
Ça, on n'a pas la moindre idée de qui aurait pu sortir.
Êtes-vous membre du jury?
Non, mais moi, je suis, vous savez, je suis traité par le mépris. Je suis considéré comme une quantité négligeable. Moi,
nous ne sommes pas demandé de comme quantité négligeable. Ça développe notre humilité, surtout en temps de carême que vous avez évoqué.
Non, j'ai pas fait partie du jury, mais comme par hasard, je connais la réponse, je connais le prix parce que je me suis,
vous savez,
en bon journaliste, je me suis informé. Et j'ai longuement torturé Bernard Anthony qui a fini par m'avouer. Et si j'avais voté, j'aurais voté pour ça. Donc, c'est un peu comme si j'étais membre du jury au fond. Vous aussi, je pense, Camille, vous savez.
Je pense, mais voilà. Je ne suis pas non plus membre.
Non, pas non plus. Jean Madiran non plus.
Non, je ne suis pas membre du jury.
Et pour une raison.
Et je ne sais pas quel est l'auteur courant.
C'est vrai, je ne sais pas.
Quand il y aura une coupure de
courant,
hors
micro.
Pourquoi?
Non, je vous le dirai. Sans charge, je vous promets, je vous le dis.
Mais pourquoi hors micro? C'est pas juste pour les auditeurs. Hein? Ils aimeraient savoir eux aussi.
Mais qu'ils viennent.
Maintenant,
ah oui, mais c'est.
Mais ils voudraient savoir dès aujourd'hui.
Non, je suppose que c'est sous embargo jusqu'à.
C'est
sous
embargo. C'est comme le. Comme la face cachée du monde.
Voilà, exactement.
Ils voudraient savoir comment y aller aussi.
Est-ce que c'est ça, je vais leur dire parce que. Donc c'est à Villepreux, samedi toute la journée. Il y a.
Non, 14
non.
heures.
Non, non, ça commence.
Oui, enfin, toute la journée. La journée commence à 14
heures.
Oui.
Les privilégiés sont convoqués le matin, effectivement.
Oui. Alors, donc 14 heures. Villepreux, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas difficile d'y aller. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y aura un discours particulièrement percutant de Bernard. Il m'a dit que ça allait chauffer. Donc les amateurs de chauffage sont invités à venir. Et ensuite un dîner. Alors pour le dîner, on peut encore s'inscrire. Il reste quelques places, à condition de le faire dès demain, au numéro que je vais donner, qui est probablement faux, mais enfin, de toute façon, c'est la boutique, puisque c'est le numéro qui est celui de la griffe. Mais ça doit être la même chose. La griffe, Centre Charlier, et toutes ces sortes de choses. À moins que vous ayez un meilleur numéro, Camille, peut-être.
Ah, je ne sais pas. Moi, j'en ai un aussi.
Venez voir ce que vous avez.
01-40-51-74-07.
Ah bah alors, il doit être meilleur que le mien. Vous voulez le répéter, s'il vous plaît.
01-40-51-74-07. Mais peut-être y a-t-il deux numéros, donc donnez le vôtre également.
Alors, je vais le donner. C'est 01-40-46... 96-31. Mais je crois que le vôtre est meilleur.
Un petit peu plus vite, s'il vous plaît.
Un peu plus vite? Je peux pas, je suis à mon maximum. 01-40-46-96-31.
Et je crois qu'il est utile que les gens téléphonent parce qu'il y a des navettes à partir de Versailles. Donc, les gens seraient bien inspirés de téléphoner à ce numéro, ceux qui arriveront en train. Pour connaître l'heure des navettes.
Voilà, donc c'est tout près de Versailles. Si on vient en voiture, on prend l'autoroute de l'A13 depuis Paris, on sort direction Versailles-Notre-Dame, c'est la deuxième sortie, et là on retraverse immédiatement l'autoroute, et on prend à droite, une fois traversé l'autoroute, dans la direction de Saint-Nom-la-Bretèche. On traverse Bailly, Noisy, Saint-Nom-la-Bretèche, on tourne à gauche et on arrive à un carrefour à gauche et c'est le château de Villepreux. Ça s'appelle Grand Maison à Villepreux. C'est très facile et si vous êtes perdu, vous demandez.
Et on vous, en plus ça, le cadre est magnifique.
Ah, c'est vraiment un endroit extraordinaire.
Oui,
c'est splendide, vraiment splendide. Ne serait-ce que pour voir la salle, si vous avez des enfants à marier, par exemple, vous pouvez venir visiter et ça vous donnera des idées pour organiser le mariage, parce qu'ils font, c'est un établissement qui organise des grandes
réceptions. Et notre ami de Saint-Seine est de nos idées et très, très, très gentil.
C'est un monsieur très gentil, voilà. On aura tout dit comme ça. Et on va pouvoir commencer ce clan de la presse. Alors, je vais donner la parole pour commencer à Jean Madiran, peut-être.
Si vous voulez.
Alors, le système qu'on a adopté, je préviens les auditeurs, parce qu'on nous reprochait le caractère légèrement cacophonique de l'émission, chacun parlant sur les autres. Donc, le système qu'on va essayer d'adopter et de respecter, c'est que chacun des invités a un sujet de prédilection qu'il va évoquer. Et si les autres patrons de journaux veulent intervenir sur ce sujet, poser des questions ou donner des avis, eh bien, ils le feront après, librement, dès que Jean-Claude Varane aura interrompu son concert de musique contemporaine et même sérielle à l'aide. Ça, c'est pour qu'on dise le titre de son journal. C'est symphonie, plutôt concerto pour National Hebdo.
Voilà. Chiffonné. Je suis aidé par notre ami Madiran.
Très bien. Jean, alors, quel est le sujet qui retient votre attention particulièrement?
Il y en a plusieurs, mais enfin, s'il faut s'en dire, je souhaitais attirer l'attention sur le centième anniversaire cette année. Après l'année Maurras, nous entrons, nous sommes entrés dans l'année Saint-Pédis, puisque c'est le centième anniversaire de l'accession au souverain pontificat du seul pape des temps contemporains qui ait été canonisé, le premier qui a été canonisé depuis Saint-Pie V. Et d'ailleurs, plusieurs déjà s'en occupent. Une avocée a retenu une date. Là, naturellement, la fraternité sacerdotale Saint-Pie X annonce déjà un colloque universitaire pour le samedi et suivi le dimanche de le samedi 24, 22, 22, enfin la fin du mois de mars. Je l'avais noté.
Peut-être le 20.
Non, mais c'est prochain, ça, c'est à la fin du mois de mars, ça ne donnera pas là. Oui, le samedi 29 mars, c'est suivi le dimanche 30 mars à l'espace Cap, 15 rue de Grenelle à Paris. Donc, une avocée a retenu une journée de grande célébration liturgique en novembre. Mm-hmm. La date exacte de l'anniversaire, c'est au début du mois d'août, c'est pas spécialement. Mais ce que je voudrais dire, c'est que pourquoi présent là-dedans en plusieurs titres. D'abord parce que je pense que cette, mais je n'insisterai pas, c'est que cette mémoire de Saint-Pie X peut rassembler à l'intérieur de la famille, comme disait Beckett, des gens qui pensent la même chose, qui veulent les mêmes choses, qui réclament nous le réclamons, qu'on leur rende l'écriture, le catéchisme et la messe, et qui quelquefois, parce qu'ils mettent des accents différents ou ont quelques tactiques différentes, s'éloignent un peu les uns des autres. Dans la célébration de Saint-Pédis, je pense qu'on pourra tous se retrouver. Mais le point sur lequel je voudrais insister, c'est que si, au mois de janvier, présence est lancée dans cette affaire qui a été aussitôt soutenue par Serge Beckett, que je remercie une fois encore, c'est parce que nous avons été interpellés en qualité de laïcs et sur le plan politique par une note du Saint-Siège, d'ailleurs excellente à beaucoup d'égards, c'est la première chose que je dis à son sujet, une note doctrinale sur les questions sociales et politiques. Et que c'est un ordre doctrinal inauguré l'année Saint-Pie X en le rayant des cadres.
Ouais. En rayant des cadres Saint-Pie. Ça m'a beaucoup frappé dans votre article. Et du coup, j'ai regardé sur le site du Vatican.
Oui.
Et j'ai découvert que Saint-Pie X, mais vous l'avez dit, le pape canonisé du XXe siècle, et le dernier des papes canonisés en date, était celui qui avait le moins de notices, le moins de pages, comme on dit, sur le site internet du Vatican.
Mais alors là, pas du tout, alors qu'il s'agit, n'est-ce pas, d'une autre doctrine politique, et que la lettre apostolique, notre charge apostolique de Pie X, dont je vous ai prendrai, dont je ne vous citerai qu'une phrase, qui montre à la fois son importance et peut-être l'une des raisons de son exclusion, c'est qu'elle compte cette phrase, les véritables amis des peuples ne sont pas les révolutionnaires, mais les traditionnalistes. Je traduis pas, elle a été écrite en français, parce qu'en outre, elle expliquait pourquoi le sillon de Marc Sangnier devait être tenu à l'écart. Dans la même note, il y a une insolence extraordinaire. Alors, naturellement, la plus grande insolence, c'est de supprimer Saint-Pie-X de ce cas-là. Je signale d'ailleurs que cette exclusion de Saint-Pie-X mérite qu'on y réfléchisse, parce que dans le catéchisme de l'Église catholique, édition définitive, 1998, page 626, vous verrez une exclusion semblable de Saint-Pie-X. Je donne la page pour que ceux qui ont le catéchisme catholique s'y reportent. Et Pie XII. Pie XII qui était dans la même catégorie, d'abord c'est lui qui a canonisé Saint-Pie-X. Bien. Eh bien, Pie XII, lui, il est quand même cité dans la note, dans les références parmi les documents pontifiques qu'on peut consulter. Pie XII qui, comme vous le savez, est mort en 1958. Et Pie XII qui a développé des points de vue de doctrine sociale de l'Église, ce qu'on appelle doctrine sociale et politique, n'est-ce pas, de morale politique, notamment dans ses radio-messages de Noël, hein, ses radio-messages de Noël, notamment ceux des années 50. Eh bien, il y a, parmi les documents pontificaux, Pie XII est cité avec la mention « radio-message » entre parenthèses 1940-1944. Alors là, c'est pas une étourderie.
Oui, bien sûr.
C'est pas un oubli. Mais... Alors je pense, n'est-ce pas, que très respectueusement, on devrait prier, comme je l'ai déjà fait publiquement, prier de le cardinal Ratzinger de surveiller ses minutanti. Ces minutanti qui font de telles impertinences dans des documents qui ne sont pas suffisamment relus.
Voilà. Un des aspects frappants de cette affaire, c'est quand même que on voit que les mêmes méthodes exactement sont utilisées dans une société qu'on pourrait espérer épargner par ce genre de manipulation qui est l'Église. C'est les mêmes méthodes qu'on trouve, par exemple, dans Le Monde. On va en parler, je pense, tout à l'heure, ou en politique ou à la télévision. C'est les méthodes orwelliennes qui consistent à effacer, ou staliniennes, si on préfère, communistes, tout simplement, qui consistent à effacer un personnage sur une photographie.
Oui, les méthodes beuvemériennes, pourrait-on rappeler à l'encontre de la thèse principale de cet énorme livre qui croit que
le mal du
le
monde
mal
a commencé
avec Colombani.
Oui.
Pour le monde. Mais ça, c'est un autre sujet.
Oui,
je m'arrête sur le mien. Quelqu'un veut-il ajouter un complément ?
Pas de commentaire.
Jean-Claude Varane veut-il élever une objection ?
Pas du tout.
Je le remercie.
Est-ce que vous pensez qu'après l'opprobre pesant sur Pie X, comme vous l'avez montré, et sur Pie XII, il se trouvera un autre pape pour relever ce nom de Pie ? Ou que le poids de l'histoire sera si...
Pourquoi pas ? Parce que Saint-Pie-X, qui n'était pas encore canonisé, Pie-X, eh bien, il a fallu relever ce nom de Pie-X. Parce que l'élection au conclave en 1914 du successeur de Pie-X, c'est faite au nom, parmi la majorité des cardinaux, et cette fois surtout pas un intégriste. Je ne fais aucun anachronisme. Le premier emploi du terme intégriste a été, dans l'Église, a été sous le règne de Pie-X et contre lui. Et Pie XII a relevé. D'un point de vue français, d'ailleurs, nous sommes... D'un point de vue, même puisqu'il s'agit de notre politique, on sait très bien comment Pie X a protégé l'action française contre ses ennemis à l'intérieur de l'Église, et on sait très bien comment Pie XII a levé une condamnation qu'un autre Pie, d'ailleurs, Pie XI, entre-temps, avait jeté sur elle. Mais le nom de Pie peut très bien être relevé.
C'est peut-être le chiffre qui poserait problème, comme on dit, parce qu'ils sont superstitieux, non ?
Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'il peut aussi y avoir... que le nom lui-même soit relevé, peu importe, parce qu'il peut être relevé dans 10 siècles, si le monde doit encore durer 10 siècles ou davantage. C'est pas ça, c'est que il peut très bien être relevé, il pourrait être relevé. Ça ne veut rien dire en soi. Il pourrait être relevé par un pape, disons très, d'un mot un peu bête dans le corps, mais enfin disons très progressiste, et qui prendrait le nom de Pie, comme selon une politique de gouvernement qui est très répandue, n'est-ce pas, c'est que la politique du « je vous ai compris ». Et de faire passer des idées très gauchistes avec la caution d'une sommité qui passe pour être droitière.
C'était déjà un petit peu le cas de Pion, ce qui n'était pas proprement parlé un traditionnaliste fanatique.
Oui, enfin, il était plus. Il y avait les deux chez Pion. C'était pas gauche. Il y avait les deux chez Pion. Ouais, et puis quand il s'est mis à connaître le communisme, il était allé fort.
Ce qui va être intéressant, c'est de voir comment l'Église va traiter ce centenaire, si elle le traite d'une manière ou d'une autre. Je parle de l'Église de France, par exemple. On attend que.
Alors, l'épiscopat français est le plus opposé à Pie X. Ça, le plus opposé à Pie X, ça, c'est certain. Le plus opposé à Pie X.
Bien. Eh bien, attendons de voir ce qui va se passer, mais je pense que ça sera une façon intéressante de porter un diagnostic sur l'état de l'Église.
Et en tout cas, de faire, parce que ça, ce sont des choses sur lesquelles nous pouvons agir, pas beaucoup, mais réellement. Nous pouvons dire, puisque si la mémoire de Saint Pie X n'est pas entretenue, n'est pas cultivée, nous pouvons la cultiver, et du simple fait que nous la cultivons, il y a quelque chose de changé, au moins dans ce domaine. Ça dépend de nous.
Alors Camille, vous avez à vous un sujet qui est moins historique, enfin, ou encore que la charge historique soit discutable.
Oui, je crois que je suis la seule représentante. Oui, je suis la seule représentante ici du seul journal qui paraissait pendant la guerre d'Algérie et dont qu'il a abondamment couvert, puisque Rivarol a été créé en 1951, donc de 1954 à 1962 et très au-delà, nous avons été très engagés puisque comme Jean-Paul Angelelli l'a rappelé la semaine dernière, l'organisation du procès du petit Clamart fut largement notre fait puisque ce sont nos lecteurs qui avaient financé par une souscription la venue des témoins au procès de Bastien Thiry à Vincennes et entre autres moi-même puisqu'il se trouve qu'il y a 40 ans exactement et quelques semaines je témoignais au procès de Vincennes sur justement les horreurs qui s'étaient produites et en l'occurrence c'était sur l'enlèvement de mon cousin qui avait 38 ans et de 38 ans et de ses deux enfants qui avaient 15 et 16 ans. Le garçon avait 16 ans et Aline, la petite fille, avait 15 ans. Et ils ont été enlevés en mai 62 entre Tlemcen et Mostaganem et ils ont disparu à tout jamais. Mon cousin était haut fonctionnaire puisqu'il était directeur de prison et rien n'y a fait. Les autorités d'Oran n'ont absolument pas bougé pour retrouver ce malheureux et surtout ses enfants dont nous espérons tous évidemment qu'ils sont morts très vite dans les minutes qui ont suivi leur enlèvement. Donc évidemment, nous sommes particulièrement sensibilisés au voyage de Chirac en Algérie. Mais au-delà de ces problèmes, moi, ce voyage que nous avons annoncé dans Rivarol apparaître vendredi sous un titre un peu raccourci, Chirac à Alger, bienvenue aux nouveaux antisémites, ça m'a paru comme une formidable imposture à tous égards. D'abord, à l'égard des Français. auquel on a montré des images de foules acclamant le président de la République, de drapeaux français, et Françoise Richard a fait un dessin à mon avis extraordinaire. On voit Chirac face à la foule algérienne en disant « ça me rappelle le soir de ma réélection, les drapeaux français en plus
oui. ». Tout le monde a en mémoire les images de la place de la République.
La République dans un déferlement de drapeaux maghrébins et notamment algériens. Et donc on nous a pendant depuis une semaine, on nous berce avec, je ne sais pas si quelqu'un a lu la déclaration, l'intégralité de la déclaration commune Chirac-Bouteflika qui est sur Internet et qui est absolument hallucinante. L'extrême densité et la richesse exceptionnelle des liens multiformes qui unissent la France à l'Algérie, les valeurs d'amitié, de solidarité et de coopération en vue d'un avenir partagé, l'instauration de rapports privilégiés, d'un partenariat d'exception, etc., etc. Il est bien évident que tout ce que les Français qui sont émerveillés de l'accueil triomphal réservé à leur président, on leur a un petit peu moins dit quelle serait la contrepartie, c'est-à-dire que c'était non seulement des investissements. Et encore, je ne me réjouis pas du tout de la misère qui règne en Algérie, au contraire. Je souhaiterais qu'il y ait des investissements évidemment contrôlés, mais pour que la situation soit la meilleure possible en Algérie, qu'il y ait le moins d'immigration possible.
Mais pour l'instant, ça serait surtout la situation de Bouteflika et deux ou trois autres caciques du régime qui seraient améliorés.
Oui, voilà. Voilà, tout ce qu'on sait parfaitement, que tous les investissements et les crédits serviront à l'avènement de nouveaux califats, à l'enrichissement de la nomenclature actuelle et à l'enrichissement de la nouvelle nomenclature qui n'aspire qu'à jouer les oligarques dans la nouvelle Russie et de s'enrichir le plus possible.
Et accessoirement à l'enrichissement de la nomenclature française, parce qu'il ne faut même pas oublier que une des raisons pour lesquelles la France est si généreuse avec les pays africains ou les pays du Maghreb, c'est que quand on en France, les hommes politiques français, les hommes du pouvoir en France, ont quand même certaines difficultés avec l'organisation du contrôle, notamment de la Cour des comptes, ils ont certaines difficultés à se servir directement dans la caisse pour mettre dans leur poche. Ils le font, mais ils sont obligés de prendre des précautions. Tandis que quand ils donnent à un pays sous-développé, où il n'y a absolument aucun contrôle des finances publiques, et que c'est le président ou le chef de ce pays sous-développé qui verse immédiatement le fric sur son compte en banque privée en Suisse, lui, il lui est beaucoup plus facile à ce président de ristourner une partie, et une forte partie, du pognon à un jeune camarade français qui l'aurait aidé à avoir cette subvention déguisée. C'est comme ça que un président de la République décédé récemment, qui à mon avis s'appelait, si j'ai bonne mémoire, François Mitterrand, a constitué une bonne partie de sa fortune. La France était d'une formidable générosité avec des Africains qui ristournaient. Donc,
vous voulez dire que les prises de participation, par exemple, dans dans Péchiné American Cannes, ça aurait pu. C'était une suite du sommet de Bujumbura.
C'est une hypothèse. C'est une idée qu'on peut lancer comme ça. Tiens, c'est un sujet de réflexion.
Voilà. Hein.
Réfléchissons à cette question. Est-ce possible? Est-ce envisageable? Alors, d'aucuns diront non, bien sûr, on ne peut pas soupçonner les hommes politiques de malversation. Je serais assez tenté de le croire, effectivement, mais il se trouve que par moment là, les mauvaises langues ont raison et on s'aperçoit que les hommes politiques ne sont pas toujours aussi radicalement honnêtes qu'on pourrait le croire. Bon, après tout, ils sont pas supérieurs à qui que ce soit. On peut comprendre que la tentation, l'herbe tendre, voilà. Et donc, on comprend, c'est ce qui fait la générosité du trésor français.
Oui, mais enfin, qu'on donne encore, mettons, ces investissements, il n'était peut-être point nécessaire que M. Chirac, qui, pendant la campagne du deuxième tour, a refusé de dialoguer avec Jean-Marie Le Pen, qui était son challenger, le candidat normal du second tour, et multiplier les accolades et les embrassades avec Yacef Saadi, chef Felaga, ancien proxénète, et c'est là où c'est l'imposture quand on dit aux Français il faut que à nouveau l'amitié, un traité d'amitié franco-algérien, comme il y a eu un traité d'amitié entre De Gaulle et Adenauer. Mais personne n'a jamais demandé à De Gaulle d'aller donner l'accolade aux agents allemands de la rue Lauriston.
Oui.
C'est très exactement ça. Et dans le gouvernement de Konrad Adenauer, il n'y avait pas, que je sache, d'anciens hiérarques de la NSDAP. Donc la situation est parfaitement différente, puisque là c'est le gouvernement de guerre. Monsieur Bouteflika était un des dignitaires du FLN pendant toute la guerre, a été ministre des affaires étrangères de chef FLN, etc. Donc c'est d'autant plus monstrueux de voir ces amabilités, et ces amabilités que Chirac va payer avec des visas.
Je voudrais quand même faire une remarque, si vous permettez, c'est qu'au moins il y a une supériorité d'Yacef Saadi, le proxénète, sur les autres proxénètes algériens, c'est que lui, il est en Algérie.
Apparemment, oui. Je pense qu'il doit passer une grande partie de son temps à Paris.
Ah bon? Oui. Alors c'est même pas une supériorité. Décidément, on ne peut pas lui trouver la moindre qualité à cet homme-là. Alors on raconte, la presse algérienne, je dis ça pour montrer un peu l'ambiance qu'il peut y avoir là-bas, la vive sympathie que le peuple algérien éprouve pour le pouvoir algérien. Il y a une blague qui circule dans les journaux, c'est que la France, naturellement, a payé la réfection des rues d'Alger. On a repeint tous les immeubles qui étaient sur le passage.
Voilà, c'est Potemkin, pas mort.
Voilà, c'est Potemkin, exactement. On a potemkinisé Alger, et la presse dit que Bouteflika aime tellement les Algériens que quand Chirac sera parti, il va récupérer la peinture. Mais moi, je trouve quand même très sympathique cette idée que 40 ans après avoir foutu les Français à la porte dans les conditions qu'on sait, les Algériens applaudissent Chirac en disant « donnez-nous des visas ». Alors, si... Ça, c'est l'application d'une vieille histoire que je raconte depuis longtemps. Il va donner des visas, ils vont venir en France, et puis dans quelques années, ils nous foutront à la porte.
Oui.
En nous donnant
oui, mais enfin, justement, c'est quand même... et je ne sais pas si les auditeurs ont saisi l'absurdité de la situation. C'est que 3 jours avant que Chirac ne parte en Algérie, messieurs Ferry et Dercos ont présenté leurs 10 mesures contre le nouvel antisémitisme dans les collèges et lycées, antisémites dont on reconnaît que ce sont des Maghrébins, puisqu'on c'est les ministres disent clairement que c'est en surtout il faut agir très vite en vue de la guerre avec l'Irak. Donc c'est dans une perspective islamo-maghrébine. Or, il est bien évident qu'en accueillant des Algériens qui feront des enfants, on fabrique de nouveaux antisémites.
Enfin, on prend le risque.
On prend le risque de fabriquer de nouveaux antisémites potentiels.
Ouais.
Donc c'est une situation absolument absurde. Je sais bien que M. Ferry a dit, très exactement, je veux citer la phrase textuellement parce qu'elle est tellement énorme, que l'antisémitisme d'un type nouveau émanant des milieux arabo-musulmans constitue certes un danger, mais il a une origine plus acceptable que l'extrême droite. C'est une réflexion fabuleuse.
Si M. Ferry est aussi intelligent qu'il
c'est une réflexion fabuleuse. Donc évidemment, puisque ça n'est pas une des nouvelles antisémitismes d'extrême droite, c'est moins grave.
C'est plus acceptable. Donc, ça veut dire qu'il y a dans l'intolérable, c'est un degré dans l'acceptable. L'antisémitisme est acceptable. aux yeux de M. Ferry, et il est encore plus acceptable quand il émane des milieux islamo-maghrébins. Et moins acceptable quand il émane des milieux de l'extrême droite. Moi, je me serais attendu à ce qu'ils disent...
Parce qu'ils ne veulent pas se risquer à traiter l'antisémitisme maghrébin comme ils traitent le pseudo-antisémitisme de l'extrême droite. Ils ne veulent pas s'y risquer.
Ça rapporterait beaucoup moins de fric.
Et ça leur rapporterait beaucoup plus de horion sur la figure.
Enfin, Monsieur Ratier.
Il s'agit de deux types d'anti-judaïsme différents. Ouais. Je pense que c'est vraiment deux types totalement différents.
Ça ne doit pas faire une grande différence pour celui qui est au bout du point.
Mais le résultat est le même.
Ouais. Oui, mais...
sauf qu'on n'a jamais vu dans les collèges et lycées des lycéens... même d'extrême passant pour d'extrême droite agresser les professeurs juifs et les empêcher de parler comme l'a raconté une professeure à l'AFP, Madame Naon, qui l'a raconté à l'AFP que pendant un an elle a vécu dans la trouille abjecte d'une gamine qui avait refusé d'être notée par, qui avait refusé de lui donner sa copie, et elle avoue qu'elle l'a surnotée pendant tout le reste de l'année parce qu'elle avait peur. Enfin, je n'ai jamais... Si, laissez-moi vous dire que si un lycéen d'extrême droite s'était conduit comme ça, ça se serait su.
C'est probable.
Oui, mais de même qu'on découvre que depuis des mois et des mois, il y a des trafics de drogue couverts par des professeurs qui ont peur de ne pas le couvrir, qui sont menacés de mort s'ils le dénoncent et qu'ils le couvrent.
Oui, ça ressortit à la même...
C'est pas directement une question d'antisémitisme, mais c'est une question de même origine. Quant à l'origine acceptable ou non acceptable, c'est qu'on n'avait jamais vu ça avant et qu'il y a là le problème que l'on ne veut pas nommer, finalement.
Il y a un autre aspect qui est curieux dans les écrits de monsieur, les déclarations et les écrits de monsieur Ferry, c'est que monsieur Ferry dit que l'antisémitisme des islamo-maghrébins est légèrement différent parce qu'au fond, il n'a pas la même importance. Par exemple, dit-il, le mot feuge, qui est le mot juif en verlan, est utilisé pour, pas d'une façon vraiment antisémite, mais pour désigner quelque chose qui ne marche pas, quelque chose qui est nul.
Oui, voilà.
Alors on dit, par exemple, un stylo feuge. Quand ce stylo n'écrit pas, c'est un stylo feuge. Alors je me suis dit, bon, mais c'est intéressant parce que d'abord, ça veut dire que le ministre de l'Éducation nationale intègre comme une donnée obligatoire de la connaissance un langage qui est un langage qui n'a pas d'existence. Le verlan n'a aucune existence légal. C'est-à-dire que si je sors dans la rue et que je dis sale feuge à un type, je vais être sanctionné pour l'avoir traité de sale quelque chose qui n'existe pas. Donc si je dis sale brugnot, on peut aussi supposer que brugnot c'est une injure grave, ou plicope, ou n'importe quel mot. Mais où ça devient vraiment du délire, c'est que si je dis, ah moi j'aime pas le beurre, ah moi le beurre je ne peux pas le supporter le beurre, eh ben je peux aller en tôle, tout simplement parce que je préfère l'huile d'olive.
Nous avions failli, Jean.
Hein?
Nous avions failli pour employer le mot beurre. Vous vous souvenez du procès que je vous avais valu d'en présent.
Oui. Alors on arrive vraiment à un système qui est un système de pure folie.
Mais nous sommes dans la pure folie.
Je voulais justement
pour l'imposture, et je voudrais dire aussi que l'imposture est formidable parce qu'elle s'est adressé aussi aux Algériens. Alors, les Algériens disent Chirac est le Romain des Bois du monde arabe. Mais,
pour l'Irak.
Mais enfin, moi, je trouve quand même invraisemblable. Je ne connais pas, peut-être Jean a-t-il d'autres exemples dans l'histoire, mais qu'on ait systématiquement dépouillé un pays de toutes ses armes avant de l'abattre, et que sous la pression de la communauté internationale, ça n'est pas un seul ennemi, c'est l'ensemble des ennemis qu'il aura obligé à démanteler son armement, à détruire ses missiles à une semaine de son agression. Or, la destruction des missiles, je regrette, mais M. Chirac est tout aussi responsable que M. Bush. D'ailleurs, je vois dans je ne sais pas qui a écrit cet excellent éditorial du Libre Journal.
C'est un mystère. Enfin, c'est un mystère. C'est vrai qu'il n'est pas signé parce que l'auteur de cet article n'a pas tenu à le signer. C'est un spécialiste des questions boursières, financières.
En tout cas, qui parle d'accord secret Bush-Chirac, ça me paraît, en effet, ça ne me paraît pas une hypothèse absurde.
Ça paraît vraisemblable. Surtout les
Arabes. Et je crains que le monde arabe et les Algériens qui aient applaudi Robin des Bois à Chirac, dans les jours prochains, ne soit déçu.
Un commentaire
Patrick Goffman. Un commentaire du Canard Enchaîné qui corrobore aussi bien, merci, Camille Gallic, que notre éditorial non signé, en rapportant que monsieur de Villepin, en recevant un groupe d'élus UMP au Quai d'Orsay récemment, leur a déclaré « Utiliser le veto à l'ONU serait tirer une balle dans le dos des Américains ». Alain Juppé, de son côté, « Le veto entraînerait des conséquences extrêmement graves pour la France. Ce n'est pas la meilleure chose à faire ». Et Chirac, lui-même, aurait déclaré « La France fait tout ce qu'elle peut, mais le problème, c'est qu'il est impossible d'empêcher Bush d'aller au bout de sa logique de guerre ». Le virage que nous annoncions, donc il y a déjà quelques jours, en éditorial du Libre Journal 287, a l'air d'être bien pris.
D'ailleurs, c'est intéressant de voir à quel point cette façon d'agir, cette façon de penser est générale. On a dit que Chirac avait refusé de soutenir le projet de ratonnade en Irak parce qu'il avait craigné un soulèvement des banlieues en France. On constate que Bush, qui n'accepte pas que Hassan lève le petit doigt ou fronce le sourcil, tolère parfaitement que les Coréens tirent des missiles à longue portée et encadrent un avion espion américain d'ailleurs pendant 22 minutes au-dessus d'un territoire.
Washington va faire une protestation.
Ah oui, mais ils ont dit que c'est inamical.
Voilà, c'est inamical.
Donc, en fait,
Chirac n'a jamais, absolument, ne s'est jamais élevé contre le pilonnage de la DCA et de systématique depuis 1998 de l'Irak. C'est-à-dire que je ne sais pas s'il y a un autre exemple vraiment dans l'histoire de belligérants si minuscules par rapport à l'agresseur qui ait été obligé de désarmer par le monde entier, y compris d'ailleurs les pays arabes, qui le pressent de faire preuve de bonne volonté. Il y a là quelque chose qui me scandalise profondément.
Oui, mais vous savez, il y a une chose qu'il faut voir, c'est que si Chirac utilise le droit de veto, ça ne change absolument rien. Les résolutions passeront quand même, car le droit de veto dans ce domaine n'existe pratiquement pas.
Il n'est pas qu'il n'existe pratiquement pas, il n'existe pas du tout. Il n'est pas nécessaire, le veto n'est pas nécessaire. Voilà. Ça a été expliqué par Roger Mine d'une façon très claire. La Charte des Nations Unies prévoit que les décisions se prennent à la majorité du Conseil, y compris les 5 voix du Conseil de sécurité, du Conseil restreint, Conseil permanent. Les 5 voix du Conseil permanent, c'est-à-dire c'est
la Russie,
la Chine, la France, l'Angleterre et les États-Unis. Or, il suffit, ça c'est prévu par la Charte, il n'y a pas de droit de veto, ça n'existe pas le veto. Voilà. Il suffit qu'un des membres du Conseil permanent s'abstienne pour que la résolution ne puisse pas être adoptée. Ça s'est produit une fois au moment de la guerre de Corée. Je répète ce que Roger Mine m'a écrit et qui est d'ailleurs dans le journal. Ça s'est produit une fois au moment de la guerre de Corée où la Russie n'a pas pris part à la consultation, au vote. Et donc l'abstention de la Russie interdisait d'adopter la résolution. Ce qui n'a pas empêché les Américains de considérer que la résolution était adoptée à la majorité et d'entamer les hostilités contre la Corée du Nord. Donc là, ils referont la même chose. S'ils présentent une résolution et qu'elle n'ait pas voté faute de votants, faute par abstention d'un des membres du conseil permanent, eh bien, ils feront exactement ce qu'ils ont décidé de faire. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qu'a dit Bush ce matin. Il a dit que l'ONU veuille ou pas, on ira, et puis c'est tout. Et il faut quand même s'interroger, même si on est d'accord pour cette intervention. Je sais que il y a des journaux de la famille qui soutiennent, dont certains collaborateurs soutiennent l'intervention. Je pense à Présent, par exemple, où il y a à la fois des papiers qui sont partisans de l'intervention et des papiers qui sont contre, ce qui est à peu près unique, d'ailleurs, dans toute la presse, cette façon de donner la parole à toutes les tendances.
Et bien, Courtoisie aussi, les deux avis s'affrontent.
Bien sûr, mais Courtoisie, c'est le sens même du journal. Tandis que Présent, c'est pas construit, pas plus que le Libre Journal, sur une volonté de donner la parole à tout le monde.
Je la donnerais très volontiers. Il se trouve que je n'ai pas reçu jusqu'à présent un seul article.
C'est vrai que c'est chez nous, c'est pas...
Favorable à l'intervention américaine. J'ai passé une lettre, j'ai eu une lettre que j'ai passée, et je n'ai pas reçu un seul article.
Et ADG a quand même écrit un article.
Il se méfie de l'unanimisme. L'article est très critique quand vous le lisez entièrement.
Non. En tout cas, il y a un argument qui est récurrent, c'est l'argument vous êtes avec Krivine, avec Marie-Georges Buffet.
Non, c'est eux qui sont avec nous d'ailleurs.
Je sais pas, mais je m'en fous.
Oui, non, mais
si Krivine sort le matin,
je crois pas qu'on puisse dire que Krivine soit avec nous. Alors voyons.
J'ai lu dans des journaux que je ne citerai pas devant Jean Madian, ce propos en disant voilà, des gens qui marchent aux côtés de Krivine, partagent le combat de Krivine. Bon, et évidemment, si je sors et que Krivine me dit je suis contre, je sais pas, les avalanches, je dirais il se trouve que je suis d'accord avec Krivine. Ça m'embête beaucoup, mais je vais pas me mettre à devenir pour les avalanches.
Mais il faut pas dire ce que vous dites là, Serge, parce que moi j'ai été interpellé publiquement, et c'est ce qui m'a fait écrire mon premier article sur la question, par un journal qui n'est pas représenté ici, mais qui est quand même de la famille, et dont j'avais demandé moi qu'on voit s'il pouvait être ici, et qui me sommait d'entrer dans le camp qui va des trotskistes aux royalistes en passant par les gaullistes. Eh bien là, je ne suis pas candidat à entrer dans ce camp et je n'en suis pas.
Je suis tout à fait
Et je crois qu'on ne peut pas, résilier à ces gens en disant mais non, c'est Krivine qui est avec nous, ou en disant non, c'est nous qui sommes avec Krivine.
On s'en fout,
Si vous voulez que dans un article très critique à tous horizons, ADG a tout à fait raison.
Non, relisez entièrement l'article d'ADG. Il se méfie de l'unanimisme et c'est pour dire...
Mais vous m'interrompez avant que je dise quelque chose.
Ensuite,
alors je demande à ce que vous ne me contredisiez pas pour quelque chose que je n'ai pas encore dit et que je ne disais peut-être pas.
Mais d'un autre
côté... Vous prenez votre formule, je disais que dans un article évidemment très critique d'ADG,
dans le micro,
eh bien, il y a l'expression d'une méfiance qui est effectivement la mienne, à laquelle s'ajoute, comme je l'ai dit et comme je sais que je le dis en vain, c'est que parmi les plus grands malheurs des Français dans l'histoire de France, d'un bout à l'autre, c'est quand l'opinion française est sommée et en noir et blanc, sans nuance, de prendre position pour ou prendre position contre des hommes, des idées, des pays, des hommes, des idées, des pays qui nous sont étrangers.
Oui, c'est la position maurassienne constante.
Qu'effectivement, beaucoup de maurassiens ne tiennent plus.
Moi, je ne somme personne de prendre une position. Je revendique le droit d'avoir une position. Maintenant, si les autres veulent prendre une position différente, ils peuvent le faire. Ce qui me déplaît, je le dis, c'est l'emploi de certains termes. Je l'ai déjà dit ici. C'est pas parce que je suis contre la guerre d'Irak que je suis sadamite. Voilà, pour être clair.
À ma connaissance, personne n'a jamais dit que tous ceux qui étaient contre la guerre d'Irak étaient sadamites. C'est une expression de crier à l'agression quand on n'est pas agressif.
Je crois qu'effectivement, avoir une opinion, c'est pas rentrer dans un clan. À part le clan de la place.
Oui, mais vous verrez, Marie, que c'est pas moi qui le dis. C'est moi qui suis sommé d'entrer dans un camp.
Enfin.
C'est moi qui me suis trouvé sommé. Enfin, je ne sais pas si vous lisez la presse des confrères. J'ai l'impression
que souvent vous l'avez. Je l'ai lu, mais dans le même article, on disait aussi que le Front National ne prenait pas assez position. Or, sur la question de l'Irak, il me semble que le Front National, embourbé dans ses problèmes de succession, ne prenait pas position. Alors, le Front National a maintes fois pris position depuis des années sur la question.
Il y a eu cette sortie dans cet article, ça n'a rien à voir avec la chose dont nous parlons, et qui est le fait que c'est pas moi qui dis qu'il fallait former un camp ou ne pas former de camp.
Mais je crois que personne ne vous en fait, ne disait que vous aviez sommé qui que ce soit d'être dans un camp ou pas dans un camp. Voilà. Ça, c'est bien clair.
Mais j'étais sommé de cesser d'être absent.
Flatteur. Moi, j'aimerais bien qu'on me somme de faire quelque chose, ça pourrait que j'existe. Emmanuel, je voulais dire quelque chose.
Oui, je pense qu'il y a un certain nombre de gens autour de cette table qui, à propos de l'Irak, n'ont pas changé d'opinion depuis un certain nombre d'années.
Oui.
Mais ce qui est vrai, ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est l'attitude de la presse et des médias, la radio, la télévision, par rapport à ces périodes d'hystérie qu'on a connues dans les années 80, au moment de la première guerre du Golfe, et ensuite, lorsque, en fait, le pouvoir actuel, quel qu'il soit, n'avait pas tractionné les journalistes en donnant des mots d'ordre pour que, à la différence d'un certain nombre d'autres pays du monde, comme par exemple en Angleterre, avec les journaux anglais qui sont très favorables à la guerre dans leur majorité, même s'il y a des journaux, alors que l'opinion est plus, semble-t-il, plutôt opposée, en France, les journalistes, par exemple de France Info ou de télévision...
Il y a des journalistes à France Info.
Non, mais sont particulièrement peu belliqueux, alors qu'en général, ils poussaient toujours à la roue. Et il est évident qu'il y a eu des consignes qui ont été données pour que la presse soit favorable aux opinions, à l'opinion qui est défendue actuellement par le président de la République, globalement. Et il faut bien croire, ce qu'il faut bien comprendre, enfin, je pense qu'on va parler du monde tout à l'heure, c'est que les journalistes, je ne dis pas des gens ici, mais pour l'essentiel, on les connaît, retransmettent en réalité des mots d'ordre. Et si Jacques Chirac avait été favorable à l'intervention américaine, il est absolument évident, je crois pour tout le monde ici, que la quasi-totalité des journalistes de télévision et de radio auraient été pour l'intervention.
Comme ils l'ont été pour le Kosovo.
C'est tout sur cette question. On va rester sur l'Irak, je crois, non? Vous vouliez dire encore quelque chose sur l'Irak ou on va Varane, Jean-Claude?
Non, je crois que simplement, je pense pas qu'il y ait, pour répondre à notre ami, il n'y a pas de problème de succession, je crois, au Front National.
Ah, mais c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le confrère que citait.
Il faut écouter, Varane.
Le confrère que citait Jean Madiran, ça n'est pas moi.
On va peut-être donner son titre quand même, parce que depuis le temps qu'on parle.
Bon, ben, l'Action française.
Il faut quand même que les choses soient. Que les auditeurs sachent à quel journal se reporter. Donc, on parle de l'Action française. Donc, dans National Hebdo. Le problème de la succession de Jean-Marie Le Pen n'est pas traité.
Absolument pas.
Bon, c'est curieux. Vous êtes quand même le mieux placé pour en parler.
Il y aura un congrès qui confirmera Jean-Marie à sa place.
Comment? Alors ça, c'est un propos qui me paraît...
Ah, c'est très curieux. Enfin, on avait dû comprendre qu'il allait y avoir un vote au congrès et que ce vote allait
porter
sur le président.
Essayez.
Vous les avez.
On pourrait faire des... Peut-être que le mouvement pourrait faire des économies.
Bien, ça n'empêche pas aux congressistes de s'exprimer.
C'est le bon sens même. Je crois que la surprise du chef, ça serait qu'il ne soit pas reconduit. Quel est le sujet qui a particulièrement mobilisé l'attention?
Bien, moi, j'avais proposé justement, on en a un peu parlé tout à l'heure, c'est de l'histoire du Monde, le journal Le Monde, et je crois que Le Monde subit un peu le revers de la médaille. C'est pas que je vu porter au nu Parent et Cohen, absolument pas, car dans National Hebdo de cette semaine, journaliste Limier descend M. Cohen en catastrophe, et il a entièrement raison, il le descend. Mais je crois que dans l'affaire du Monde, il faut refaire un petit peu un historique. Il ne faut pas oublier qu'en 1945, la presse a été entièrement reconstituée. De Gaulle avait des problèmes avec les FTP. Et il a laissé la possibilité à la presse de se prendre les chefs qu'il voulait. Vous avez Defferre qui s'est emparé de journaux, Beuve-Méry s'est emparé du Monde. Il faut savoir à cette époque qu'on a laissé mettre en place par l'intermédiaire du Parti communiste le syndicat du livre, qui, le syndicat du livre, faut bien savoir, est un pouvoir considérable. Et que même, il faut aussi savoir que l'ENPP, dont, dans le fond, les éditeurs font partie de la coopérative, est aussi tenue par le syndicat du livre. Il faut aussi savoir que, bien souvent, les marchands de journaux, les kiosques, ce sont des anciens cégétistes qui les tiennent.
Pas tous, hein, ils s'en foutent quand même. Hein.
Je dis...
Je dis
bien souvent, je n'ai pas dit la totalité. Les maisons de la presse, non, puisqu'elles se vendent, etc. Donc, le Monde, à cette époque-là, a profité d'une situation extraordinaire. Monsieur Beuve-Méry en a profité largement, et à l'heure actuelle, tout à l'heure, on le disait, le Monde, c'est la référence. Eh bien, deux journalistes se sont permis, là, d'essayer de faire comprendre que le Monde n'était pas une référence et qu'au sein du Monde, il y avait des problèmes. Le Canard enchaîné fait état que le Monde se targue d'avoir obtenu ce qu'elle n'a pas pu profiter présent, que la presse quotidienne soit aidée par le pouvoir...
La presse quotidienne nationale exclusivement.
Bien, oui, puisque
présent... Donc ni présent, ni les quotidiens régionaux.
Absolument.
Oui, présent n'est pas la presse quotidienne nationale.
Et si vous voulez, il a le culot du Monde, ayant obtenu, soi-disant, cela, a demandé de toucher une commission au NNPP. Il faut quand même le faire. Et en plus de ça, a obtenu le Monde un prêt... de 1 million de dollars, d'euros, pardon. Alors, je dis que le bouquin qu'ont fait ces deux journalistes, en descendant un petit peu et en ramenant peut-être à la réalité ce qu'est le journal Le Monde, et que tout à l'heure, lorsque on l'on disait que Le Monde, que lorsqu'on lui disait de faire ceci, qu'il n'était pas tenu, le Monde... dans le fond, a une certaine pouvoir sur la politique. Il est peut-être possible que Chirac ait demandé au Monde, dans le cas de l'affaire de l'Irak, de prendre une position très nuancée et qu'il aurait peut-être fait le contraire si Chirac avait été d'accord pour la situation américaine. Moi, je dis que le Monde là vient de prendre une claque et c'est certainement une bonne chose. Car il est inadmissible qu'il y ait en France un jeune journal qui soit un journal de référence nationale. Merci.
Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est naturellement, il raconte des choses qui touchent, qui sont de, disons, qui concernent une malhonnêteté pure et simple. Mais cette malhonnêteté pure et simple est peut-être nouvelle, plus ou moins, dans le Monde, à je ne sais quelle époque, mais quant à ce qu'on appelle la malhonnêteté intellectuelle, elle remonte à Beuve-Méry lui-même.
Déjà, vous avez publié deux papiers dans Présence.
Et le Monde, d'ailleurs, qui publie même dans le Monde 2, le mensuel, il publie la couverture de mon livre prétendument contre le Monde. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Eh bien, dans ce livre, qui est d'ailleurs épuisé, qui date de 1955, il y a un chapitre sur Beuve-Méry. Il a deux pages, exactement deux pages sur cette page. Mais ceci pour dire, ah ben on a relevé tous les trucs, mais ils ne disent pas un mot du Monde, et c'est faux que Rivarol a bien voulu cette semaine mettre au premier plan de son actualité, au premier plan. parmi d'autres choses, mais sur le monde au premier plan de son actualité, parce que la vraie question, c'est que depuis Beuve-Méry, depuis le Fouet Fechteler, depuis tout, et la suite, le monde est l'auxiliaire du communisme, et il est l'auxiliaire du communisme par des procédés d'omission, d'insinuation, pas toujours de faux pur et simple, n'est-ce pas, mais et que ça a été dit à toutes les époques, mais ça n'a jamais été dit par le monde, et alors effectivement, on oublie, et on aurait affaire de Beuve-Méry. Il faut penser quand Michel Legris, quitte le Monde et fait un bouquin sur le Monde, parce qu'ils ne sont pas les premiers, il y a le Monde de Beuve-Méry, c'était bien, mais depuis Jacques Fauvet, c'est devenu infâme, c'est devenu absolument de la désinformation. Alors c'est pour ça que je dis que Colombani n'a pas d'inquiétude à avoir. Parce que quand il quittera le Monde, il faut bien qu'il quitte la direction du Monde un jour, n'est-ce pas ? Il aura un successeur. Et Péan et les autres auront un successeur qui dira « Ah, le Monde, le Monde de Beuve-Méry à Colombani, c'était formidable, mais maintenant, on ne le reconnaît plus.
Oui, » c'est remarquable,
le Monde de Beuve-Méry à Colombani. Mais alors là, c'est une... Vous comprenez, ça fait partie intégralement de cette classe politico-médiatique qui est comme une charpe de plomb sur nos institutions, le pays officiel, si l'on veut, et où ils se disputent les places, mais ils sont tous membres du même régime et solidaires dans le même régime.
Est-ce que je peux dire quelque chose qui confirme ce que dit...
Oui, et après on donnera la parole à Emmanuel.
Jean, c'est qu'on passe cette semaine à propos de la mort de Staline. Donc le Monde a fait un supplément sur la mort de Staline, où il n'y a pas l'éditorial que le Monde a publié après la mort de Staline et qui salue la sagesse de Staline.
Oui, mais le Monde annonce en première page, dans sa première page, le Monde annonce cet éditorial en disant, il reproduit le facsimilé, nous annoncions la mort, le maréchal Staline est mort, car il était le vainqueur du nazisme. Depuis, il est apparu qu'il y avait des crimes des crimes que. Il ne peut pas s'empêcher. C'est sa nature propre, n'est-ce pas?
Oui, mais ça, c'est le Monde de Beuve-Méry, justement.
Oui. Voilà.
Et de Colombani aussi.
Oui, de Colombani.
Emmanuel. Ça y est, vous avez la parole. Ne prenez pas cette surprise, ça devait arriver.
Enfin, il se trouve que j'ai pas terminé de lire les 761 pages de ce livre. Enfin, il se trouve que je l'ai, que je suis en train de le lire. Le livre est essentiel, à mon avis, et ne peut pas être apporté du tout aux ouvrages qui sont parus précédemment. Que j'ai lu Jean Badiran, il y avait eu l'Association pour la liberté de la presse qui avait fait des ouvrages, enfin il y avait eu un numéro d'itinéraire, il y a eu ST West avait beaucoup travaillé dessus, parce qu'il est tout à fait exact que le Monde qui est étudié par Péan et Cohen est le Monde en fait des années 80 et 90. Et il y a d'autres ouvrages qui sont parus sur des histoires du Monde, ils remontent pas du tout aux origines. Bon, je pense qu'effectivement, ils se trompent quand ils disent qu'il y a eu une évolution du Monde sur le côté, le Monde avait en fait repris l'héritage du Temps, qui était le journal de référence à l'époque, et
dont le directeur disait, vous souvenez la phrase inoubliable du directeur, il disait faites emmerdant. Non.
Voilà.
Il était d'ailleurs parfaitement.
Et il y a eu un fameux entretien de Gaulle-Beuve-Méry où, en fait, de Gaulle avait demandé à Beuve-Méry de monter un journal et puis finalement il a été un peu trompé. Enfin bon, et ils ont fini par se fâcher. Bon, mais c'est pas du tout ce monde-là qui est étudié. Alors, les faux du Monde, le Monde auxiliaire du communisme, la très forte influence des milieux catholiques de gauche, avec par exemple la famille Sauvageau à l'intérieur du Monde, très très importante dans les années 50-60, qui avait décrit Jean Madiran notamment, qui avait révélé d'ailleurs dans son ouvrage que je crois que c'était le directeur de la vie catholique qui déjeunait une fois par semaine avec le directeur du Monde. Bon, ce qui est très différent et ce qui à mon avis n'a pas encore été clairement, on l'a négligé, l'ouvrage montre la plus grande opération d'infiltration trotskiste de l'après-guerre.
Oui, c'est certain.
C'est ça qui est fondamental. C'est que vous vous retrouvez avec non pas des auxiliaires du communisme, non pas des crétins utiles, non pas des compagnons de route, voire même éventuellement quelques militants infiltrés. Vous vous trouvez avec des dizaines, il y a à peu près 200 journalistes, je pense qu'il y a actuellement au monde environ au moins 70 anciens trotskistes. Peut-être plus, mais il y en a 70. C'est-à-dire qu'ils représentent plus du tiers de la rédaction. Ce qui est absolument colossal. Et tous ces gens...
Pas anciens trotskistes.
Oui. C'est ce que Plenel se définit aujourd'hui comme trotskiste culturel.
C'est ça.
Voilà. C'est le... Et ça, l'ouvrage... Bon, on sait... J'en parlerai tout à l'heure. Bon, mais cette alliance entre les... Je ne veux pas choquer... notre ami Goffman, mais d'une certaine manière, les libéraux et les libertaires. On parlera tout à l'heure, la grande alliance
du capital. Je vois pas pourquoi ça le choque.
Non, parce que la grande alliance du capital, en fait, ouais. la restructuration de la classe. Bon, j'en parlerai tout à l'heure. Bon. Mais ce qui est très important, c'est de voir que là, ils le décrivent bien, on avait des éléments épars, et ils montrent bien la manière dont des journalistes, par exemple, qui venaient de Rouge, qui venaient de Barricade, mais qui venaient d'autres journaux, y compris, on l'a pas encore dit, mais de Ralfront, par exemple. Sont maintenant au Monde. Et ces gens-là, on leur fait traiter tous les sujets. Bon, alors il se trouve que depuis quelque temps, le Front National maintenant n'est plus suivi par Madame Chombeau, qui précédemment était une militante maoïste. Bon, donc ça, vous voyez, ça faisait actuellement, je n'ai pas étudié le pédigré de la personne. Mais il y a eu une véritable entreprise d'infiltration décidée, calculée, et qui a merveilleusement bien réussi.
Mais ce que met en lumière le livre de Péan et Cohen d'une façon particulièrement visible, c'est le fait que c'est pas une infiltration de simple, comment dirais-je, d'influence. C'est pas simplement pour dire, ben voilà, on va orienter la ligne éditoriale du journal dans cette direction. C'est pas ça du tout. Ce qui est très important, je crois, de souligner, c'est que ils ont capturer une arme qui s'appelle Le Monde, journal de référence, et ils s'en servent à des fins politiques directes. Exemple, confirmé par Allègre aujourd'hui, Plenel va voir, je crois...
Lui téléphone.
Je ne sais plus à qui.
Allègre.
Téléphone à Allègre en lui disant, dis à Jospin que si Bergougnou n'est pas nommé directeur de la police nationale, je ferai une campagne contre lui.
Il le regrettera.
Voilà. Il l'ont regardé. Voilà. Et donc là, ça veut dire que le trotskiste Plenel a une arme qu'il a en quelque sorte captée, qu'il a piquée sur le râtelier des armes de la presse, et il la braque sur la tempe de Jospin en disant « Tu fais ce que je veux, autrement je te flingue ».
Oui,
parce que typiquement une attitude trotskiste.
Ce qu'il faut dire, un certain nombre des choses. Bon, il y a des éléments très intéressants sur la connexion, en fait, la manière dont le monde, la société, se fait rémunérer les services, notamment avec l'NMPP, dont Jean-Claude a parlé tout à l'heure. Mais on peut le dire, puisqu'on a travaillé ensemble, moi j'ai travaillé sous votre direction à Minute pendant plusieurs années, un peu comme Mazarine que la presse a redécouvert, moi je me souviens très bien, je me souviens plus si on a signé des articles, mais on le savait très bien, que c'était Plenel qui écrivait les articles de Delaplace qui était son nègre. C'est pas une grande découverte.
Ce
qui est intéressant, ce sont des éléments en plus qui viennent. Bon, l'affaire du père de Colombani, tout le monde la connaissait.
Bien sûr.
Bon, qu'il avait été boursier en Italie, qu'il était, sa mère était pétainiste, qu'il a été évacué vers la Nouvelle-Calédonie à la Libération. C'est pour ça que Jean-Marie Colombani est né en Nouvelle-Calédonie, parce que s'il était resté sur place, il aurait pu avoir des problèmes. Et c'est ce qu'on appelle la filière corse, qu'il a évacué, etc.
Bon. Exfiltré.
Voilà. Bon. Mais un des intérêts, par exemple, récents, c'est toute l'attitude du monde vis-à-vis de la Corse, où il s'appuie sur place sur d'anciens trotskistes.
Bien sûr.
Bon. Et où il décide de devenir il décide de fixer la ligne pour l'avenir de la Corse. Et ça, c'est très très bien montré.
Et les sous-entendus, enfin plus que les sous-entendus, les accusations de Péan et Cohen dans cette, en ce qui concerne la Corse, et notamment en ce qui concerne l'affaire qu'on avait révélée aussi, moi j'ai fait plusieurs papiers là-dessus,
de Greenpeace,
mais surtout, là je parle de l'assassinat du préfet Erignac, où dont l'assassin supposé, en tout cas, l'homme qui recherchait pour l'assassinat d'Erignac était le fils d'un député socialiste, Colonna. Et qui, à l'époque, je vais dire, mais c'est évident qu'il y a une filière et que c'est Colonna, le député socialiste, qui détient des informations telles qu'on a préféré exfiltrer son fils. Bon, ça c'est confirmé aujourd'hui par Péan. Je ne savais pas à l'époque que ça avait pu transiter par la filière du Monde. Alors ça, j'avais pas cette information-là. Mais ça, c'est un scandale gigantesque s'il est prouvé. Parce que les gens du Monde se défendent. Mais... Alors curieusement, quand on a un journal comme Le Monde et qu'on est attaqué par Péan Cohen dans un livre, on se défend avec les armes de la presse, je crois.
Ils disent que c'est une campagne, d'ailleurs. Ouais, ils disent... Alors qu'il y a deux malheureux journalistes qui se sont mis à travailler
sur la question. Oui, mais ils pratiquent très bien l'amalgame. Du coup, ils rappellent Madiran, ils rappellent Le Gris, il rappelle tout ça en disant c'est toujours les extrêmes qui nous attaquent.
Là, c'est ce que je dis, c'est le syllogisme de Colombani. Madiran nous attaque, Madiran, Albertini et,
voilà.
et donc c'était d'extrême, ils étaient d'extrême droite. Péan et Cohen nous attaquent, donc Péan et Cohen sont d'extrême droite. Voilà.
Il faut se souvenir qu'avant de faire démissionner Charles Hernu, c'était Colombani, bon, c'était Plenel, qui évidemment alimentait en notes des renseignements généraux, des notes des juges du syndicat de la magistrature qui étaient passés par la Ligue, etc., avait affirmé, il avait signé un premier article dans lequel il disait que c'était l'extrême droite néo-calédonienne qui avait fait sauter
Van Borwaer. Voilà. ADG en tête.
Voilà. Je me souviens très bien, il pourra en parler. Bon. Alors, le côté, je ne voudrais pas qu'apparaît le micro, mais comme Serge m'avait demandé de choisir un sujet, bon, ben, j'avais pensé parler du Monde, je voudrais juste montrer, parce que c'est toujours amusant, montrer le côté faux cul du Monde. Alors, j'ai pris un Monde tout à l'heure, j'ai pris le Monde du mardi 4 mars, et alors très vite, je vais vous montrer quatre côtés faux cul, montrant comment, si on n'est pas un peu affûté, on a du mal à lire le Monde et on se fait manipuler. Alors, je vais aller très vite. Vous avez en page 8, la Grande-Bretagne a connu une immigration record en 2002. Alors quand vous prenez l'article, donc déjà les gens, vous vous rendez compte qu'en fait, il ne s'agit pas d'immigrants record, il s'agit de demandes d'asile. Voilà, c'est très différent. C'est complètement différent. Alors vous avez, en 2002, 110 700 personnes y ont demandé l'asile. Alors vous voyez, à l'intérieur de l'article, on vous met, l'an dernier, vous allez voir le côté incroyable, l'an dernier, 10% des demandes initiales ont été acceptées, et à peu près autant sont en appel. Mais ça ne veut pas dire qu'elles seront acceptées en appel.
Bien sûr.
Un réfugié sur quatre a obtenu une dérogation lui permettant de rester sans se voir accorder l'asile. Soit parce qu'il sera en danger s'il retournait dans son pays, soit parce que ce dernier s'oppose avant son retour. Point. Et là on arrive, ça c'est typique du Monde. En gros, 40% des demandes d'asile sont jugées sincères et leur auteur autorisé à séjourner au Royaume-Uni.
Ouais, c'est extraordinaire.
Voilà.
Je peux dire quelque chose. La plupart des demandes d'asile qui ont été acceptées sont celles de Rhodésiens.
Oui. Oui, en plus. Alors ils additionnent des cerises, des vices.
Bon, parce qu'on le fait Le côté, bon, il y a le gouvernement met fin à la gratuité des soins pour les sans-papiers. Ils font une page là-dessus. Début de l'article. La droite veut-elle faire des économies sur la santé des plus démunis? Renouer avec une culture du soupçon vis-à-vis de certaines franges de la population qui profiteraient indûment de l'État-providence. Alors que le problème n'est absolument pas là. Alors, quand vous lisez l'article, parce que c'est vrai que Le Monde publie beaucoup, vous découvrez qu'en fait, vous avez des étrangères. Alors maintenant, ce ne sont pas des immigrés, oui, ce sont des étrangères qui viennent se faire faire des inséminations artificielles qui coûtent une fortune, des maliennes, des algériennes. Il y a un certain nombre d'exemples qui sont donnés, mais il faut lire l'article en détail. Et que tout ça est pris évidemment par la couverture maladie universelle. Ouais. Et alors, c'est extraordinaire, c'est quelques abus risquent de ruiner le système. Bon, alors que ce ne sont pas quelques. Bon, page d'après, le fameux... Paul Voise, la fameuse personne dont qui avait été agressée un petit peu avant les élections
par un Orléanais.
On avait dit que ça avait favorisé le vote en faveur de Jean-Marie Le Pen. Bon, vous prenez l'article, on vous parle de voyous. Bon, et puis vous continuez. Plus de 10 mois après, les faits, les positions, les policiers sont restés fidèles à leur première intuition. Le jeune homme mis en examen vendredi, etc. Et puis Paul Voise a commenté ainsi l'interpellation. On doit respecter les autres au-delà de la couleur de la peau, du langage et des opinions. Moi, je doute que ce monsieur...
Que Paul Voise ait dit ça.
Non, ait dit ça si c'était un agresseur qui était blanc.
Non, mais c'est peut-être...
Mais jamais il n'est précisé
l'origine.
Voilà, il n'est jamais précisé le nom de la personne.
Fatimi, il s'appelle.
Fatimi.
C'est un nom typiquement... Fatimi, qui est un jeune...
On pourrait continuer
du quartier de l'Argonne à Orléans.
Mais puisqu'on parlait... Je pensais le sauter, mais puisqu'on parlait de l'Algérie...
extraordinaire, un article, la mémoire confisquée de l'Algérie française. Alors, la mémoire confisquée de l'Algérie française, alors en gros, on vous explique que les Français ont une vision biaisée de l'Algérie d'avant 62 qui oscille entre culpabilité et mélancolie. Alors, le mauvais, c'est Osarès, et le bon, c'est Élite Saint-Marc. Heurtés par les outrances de Paul Osarès, les inconsolables de l'Algérie française sont beaucoup moins contrariés par ce langage-là, donc celui de Élite Saint-Marc, virgule, qui revient lui aussi à justifier l'injustifiable. C'est-à-dire qu'on vous explique qu'en réalité, c'est l'extrême droite qui a confisqué l'Algérie française en France. Voilà. Bon, tout ce journal est fait comme ça. Alors c'est vrai que si on n'est pas, on n'a pas une bonne culture, si on n'a pas l'habitude de le décrypter, on voit tout à fait ce que ça donne pour les étudiants qui peuvent le lire.
Oui, Monsieur Goffman.
Monsieur Goffman vous demande 3 ou 4 minutes pour présenter à son tour un petit florilège de la presse récente au sujet du livre de Péan et Cohen, la face cachée du monde. Je commencerai en disant aux auditeurs de ne pas s'affoler parce que il y a un précédent à l'infiltration trotskiste dans le monde et c'est celle du gouvernement. On avait un premier ministre trotskiste. Alors, ça l'a pas beaucoup gêné pour licencier les ouvriers par centaines de mille, ça l'a pas beaucoup gêné pour faire prospérer la bourse de toutes les manières possibles et imaginables. De la même manière, pas de panique, Plenel le dit très bien, c'est un trotskiste culturel. Vous avez passé trop rapidement là-dessus, parce que qu'est-ce que ça signifie? Je suis bien placé pour le dire. J'ai été moi-même 12 ans, 24 heures sur 24, un permanent bénévole de la même secte trotskiste que Monsieur Lionel Jospin, et j'en ai gardé une culture, par exemple, celle qui fait que certains lecteurs du Libre Journal m'écrivent pour dénoncer les méthodes avec lesquelles je défends Limonov becs et ongles, d'autres m'écrivent pour me reprocher de le comparer à Dreyfus, Monsieur Massinski, vous vous en souvenez, avait dénoncé mes méthodes, et ils ont raison. J'applique des méthodes d'agitation propagande que j'ai apprises, mais je les mets au service d'une autre cause. Alors, les trotskistes culturels, les 70 trotskistes culturels du monde, de la même manière, rassurez-vous, ils ne préparent pas la prise du palais d'hiver ni de l'Elysée. Qu'est-ce qu'ils préparent? Eh bien, c'est en cours de route. Le Monde, il faut le savoir, a racheté rien que l'année dernière Le Midi Libre, Politis, Courrier International, Les Cahiers du Cinéma, pris des participations à la Croix, le quotidien suisse.
Signé un partenariat avec Le Nouvel Observateur.
Voilà, Le Nouvel Observateur, et encore dans je ne sais plus combien d'autres titres. Alors, rassurez-vous, le trotskisme culturel. Et Télérama, le trotskisme, bon, on n'en finirait plus. Donc, le trotskisme culturel est au service d'un trust qui dévore ses voisins. Et ça explique en partie, je ne vais pas m'étendre, mais à mon avis, plutôt que la préparation de la prise du palais d'hiver, ça explique beaucoup mieux pourquoi ils sont attaqués par Péan et Cohen avec cette violence et pourquoi Péan et Cohen trouvent beaucoup de soutien qui leur assure une publicité sensationnelle. Ils sont à plus de 200 000 exemplaires. Ça explique aussi pourquoi Péan a choisi entre 100 autres Charlie Hebdo, qui est censé être anarchiste, pour s'expliquer sur 2 grandes pages et dire, évidemment je ne vais pas lire ces 2 grandes pages, je vais en citer 3 lignes et dire très clairement ses vrais griefs envers Le Monde. Le Monde utilise ses pages au service de ses propres intérêts, les intérêts que je viens d'énumérer. Et il ajoute, Le Monde est mon journal et je veux retrouver mon journal. Alors, il y a évidemment une note sentimentale, où est Le Monde de Beuve-Méry, mais il y a surtout l'accusation de mener des campagnes dans des intérêts bien particuliers et non plus dans l'intérêt général du petit monde de messieurs Péan et Cohen, qui exactement de la même manière qu'Elisabeth Lévy avec ses maîtres censeurs ou monsieur Ménard avec son livre contre la censure des biens pensants, représente une gauche d'affaires qui est ulcéré de se voir petit à petit écarté de ses intérêts, de voir Le Monde et ses complices trustés par les moyens du trotskisme culturel et d'autres, trustait ses intérêts et qui les attaque pour les obliger à se remettre au service de l'intérêt général de ce petit milieu, Le Monde et mon journal, et je veux retrouver mon journal. Alors, et je vais en finir donc avec ce petit florilège, trois lignes chacun des réactions de la presse. C'est pas unanime. Charlie Hebdo soutient Péan et Cohen en disant qu'ils vont démolir Le Monde comme eux-mêmes sont en train de démolir la famille, la patrie et la religion. Le Monde étant, vous voyez, pour vous, c'est des comploteurs trotskistes, mais pour Charlie Hebdo, c'est une institution comme la famille, la religion et l'armée. Mais il y a d'autres réactions. Monsieur Kahn, on pourrait s'attendre à ce qu'il suive. Mais non, qu'est-ce qu'il dit dans Marianne du 3 mars ? Notre attachement citoyen, tous les mots sont importants, notre attachement citoyen à ce môle de la pensée critique et de la médiation démocratique que malgré ses errements, Le Monde continue de représenter, nous interdit de nous laisser aller au moindre ressentiment en relayant une action hostile que notre renfort rendrait mortelle.
Mais c'est formidable. Non, mais
est-ce que je peux le lire au 3e, au 10e degré,
non,
au 23e?
Il a écrit dans Marianne, il a écrit un article de 10 pages sur la question et il prend position en faveur du Monde. Mais ce qui est intéressant dans cette affaire, moi je pense qu'il y a des lignes de clivage qui sont assez intéressantes là-dedans, c'est qu'on voit Gisbert, l'actuel patron du Point, qui prend position pour Le Monde. Vous avez Kahn qui prend position pour Le Monde. Vous avez par exemple Alain Boer, qui est pour le moment la seule personnalité, qui est le grand maître du Grand Orient de France, qui est la seule personnalité qui se soit exprimée officiellement à l'intérieur du Monde en première page pour apporter son soutien au Monde. Donc je dis bien Kahn, Boer, Gisbert et toute une série de gens comme ça.
Oui, ça confirme absolument la thèse de Goffman, selon laquelle il ne s'agit pas d'une opération de grande pureté, mais il s'agit d'un affrontement. Et d'ailleurs, c'est au fond, c'est ce que dit Plenel. Plenel, il dit, mais c'est un complot, et je me défends contre
le complot. Non, mais il se trouve qu'il ne faut pas s'y tenir. Par exemple, il est évident que Jean-Marie Messier a donné des éléments à Péan. Bon, mais il faut dire ce qui s'était produit, quand même, ce qui est absolument inouï. Les Colombani sont invités en voyage officiel entièrement payé par Vivendi à New York. Et après, ils passent un accord comme quoi le groupe Vivendi va devenir le plus gros annonceur publicitaire du Monde et va leur verser, je crois, l'équivalent de 12 millions de francs lourds dans l'année. Et je comprends qu'ils soient ulcérés parce qu'au bout d'un an, ils l'attaquent. Et ils démolissent Jean-Marie Messier qui, en fait, a payé pour avoir la paix. Donc il ne faut pas être surpris qu'il y ait un chapitre qui soit consacré à cette affaire et qui soit particulièrement bien informé.
Un dernier mot. Il y a quelques années, dans une conférence à notre ambassade au Danemark, Patrick Besson déclarait la chose suivante. Oui, il y a une guerre entre les écrivains de gauche et les écrivains de droite. Une guerre commerciale. Ils ne se battent pas, je le cite textuellement, ils ne se battent pas pour votre liberté, pour vos intérêts, mais pour vendre du papier. Alors on pourrait le paraphraser en disant oui, il y a une guerre en ce moment entre les journaux de gauche, de l'extrême centre comme Marianne, de centre gauche, une guerre commerciale pour s'arracher des mains des parts de marché.
Alors, on va commencer à lire les interventions des auditeurs, les questions, on continuera si c'est trop long après la coupure.
À l'école de guerre, on se servait du Monde pour étudier la désinformation. Le titre de Pierre Péan et Philippe Cohen, anciens journalistes du Monde Éducation de 1986 à 1987, il sait de quoi il parle, est « La face cachée du Monde, du contre-pouvoir aux abus de pouvoir ». Merci de préciser le titre en entier, car c'est bien la deuxième partie qui vaut son pesant d'or. Pour M. Madiran, qui est parti, je n'ai pas lu le livre de Péan, mais je n'ai jamais entendu parler du livre de Madiran, « Le Monde et ses faux ». Péan et Cohen en parlent-ils dans leur livre ou l'ont-ils escamoté comme le font les médias ? Que pensez-vous des recensions de Mme Chambaud du Monde sur le Front National ?
Il faut poser la question à
Varane. C'est pour M. Ratier.
Ou Ratier.
Je crois qu'en 1997 ou 87, Jean Caud avait fait un article, ou 57, non, c'est trop tôt, Jean Caud avait fait un article sur Le Monde dans Le Crapouillot. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous rappeler la position du Front en ce qui concerne, du Front National, en ce qui concerne un éventuel conflit en Irak? Pour connaître la position de Le Pen sur l'Irak, c'est sur France Inter tout à l'heure.
Bien, les auditeurs se répondent à eux-mêmes.
Oui, c'est intéressant. Je pense que vos interlocuteurs ont raison, mais je pense que M. Chirac agit avec pragmatisme, car on n'a pas le choix. Soit on aide les Algériens qui ont des richesses chez eux à les exploiter, soit ils viennent en France. On a bien tiré un trait avec l'Allemagne, pourquoi pas avec l'Algérie pour éviter le pire. Après le voyage de Chirac en Algérie, va-t-on assister à la recolonisation de l'Algérie par la France ou bien est-ce que ce sera l'inverse? Il est ridicule d'employer l'expression antisémite quand il s'agit d'un arabe qui médit des juifs puisque l'arabe est lui-même sémite. Monsieur Ferry n'a qu'à aller visiter le site de Radio Islam sur Internet, il verra quel type d'antisémitisme nourrissent les Arabes. Pouvez-vous donner les références à propos de Luc Ferry sur l'antisémitisme? Plusieurs messages, enfin plusieurs auditeurs de gens qui peuvent, oui.
C'est dans Rivarol qui paraît.
Non, mais j'ai la référence par Internet.
Pour M. Ratier, la Corée du Nord est-elle dangereuse? Serge de Bekatch a dit qu'il préférait l'huile d'olive au beurre, mais il me semble que cette émission sent un peu le vinaigre. Précision concernant l'affaire aérienne américano-coréenne. Les avions coréens ne se sont pas contentés d'encadrer l'avion espion américain. Un des avions s'est approché à 15 mètres, un autre avion a verrouillé son radar sur l'avion américain. À ce moment précis, si le pilote coréen avait tiré un missile, l'avion américain aurait été détruit. Alors là, j'ai les choses pratiques, on les dira peut-être après, enfin allons-y. Vous nous avez parlé de la journée de samedi à Grand-Maison, vous nous avez dit comment y aller et à quelle heure, mais vous n'avez donné ni le thème ni le programme de la réunion. Pour aller à Villepreux, le samedi 8, faut-il passer par Versailles ou par Saint-Nom? Alors, si vous voulez, moi je donne tout de suite la réponse. Pour ces renseignements précis, vous téléphonez au 01 40 51 74 07 ou 01 40 46 96 31.
Quand je dis Versailles, ça dépend d'où on vient d'ailleurs. Si on vient de Paris, évidemment, c'est pas la peine d'aller jusqu'à Versailles. J'explique.
Il faut. Pas toute petite, il a été débaptisé dans le 15e la rue Alexis Carrel pour Jean-Pierre Bloch. Qu'en pensez-vous?
C'est un gag.
Peut-on.
C'est un gag. C'est vrai, mais c'est une. C'est parce que.
Bah oui, c'est ça.
Non, c'est vrai.
Mais de la Noé était escorté de Johnny Hallyday pour débaptiser le. Voilà. La rue Alexis Carrel et
pouvez-vous nous dire si c'est le même Roger Mine qui avait fait le cri de la chouette?
Oui, c'est lui, c'est
le gars. Je l'appréciais beaucoup. Qu'est-il devenu? Écrit-il
il fait toujours le cri de la chouette.
Et si oui, dans quel numéro?
Non, il écrit dans le cri de la chouette et ça suffit largement à son bonheur.
Et pour un rappel historique pour Madame Gallic, alors que nous étions à l'abri de certains établissements de la République, il nous parvenait Rifarol et Carrefour et sur la page d'en-tête de l'un d'eux, je ne me souviens plus exactement lequel, la photo de plusieurs conjurés de l'Algérie française et comme épitaphe une phrase d'un poème de Peggy, « Voici tes fils qui se sont embattus ».
Oui, c'est dans Rivarol, oui.
Merci. Bon, ben, on fait. Pardon, vous voulez dire la référence?
La référence, oui, pour.
Pour les propos de.
De Luc Ferry.
Ben, pour les trouver, il suffit d'acheter Rivarol, en fait.
Oui. Ah oui, bien sûr, on le trouvera. C'est le numéro de. La référence est dans le numéro de vendredi. Du vendredi 7 mars de Rivarol.
Formidable dessin de chat en quotidien. Il y a un autre très bon dessin à voir, si c'est dans un dessin de Conque dans Minute, qui Conque publie tous les jours, toutes les semaines dans Minute. Et il y a un dessin qui est absolument magnifique sur l'encouragement des investissements français en Algérie. Alors on voit deux investisseurs qui se dirigent vers l'Algérie et l'un qui dit à l'autre, bon, ça sera peut-être pas pire que Vivendi ou France Télécom. Voilà.
Il y a aussi le calendrier qui est pas mal.
Oui, qui est pas mal, mais je laisse aux auditeurs le plaisir de le découvrir. Coupure technique.
Merci de passer la soirée avec nous. Prochain rendez-vous musical à 21h avec les soirées musicales, séries de jazz et à 22h les musiques de films. Et puis tout de suite, la deuxième partie du Libre Journal de Serge de Becquet. Je vous souhaite une excellente soirée. Vous écoutez Radio Courtoisie, il est 19h30. Radio Courtoisie,
la radio libre du pays réel
et de la francophonie.
Eh bien, nous voici repartis pour de nouvelles... Pardon, j'ai attendu soigneusement d'avoir le micro pour tousser. Excusez-moi, chers auditeurs. Repartis en route pour de nouvelles aventures. Et nous allons conclure ce clan de la presse selon un rituel désormais traditionnel, comme tous les rituels d'ailleurs, en donnant les adresses des journaux et les conditions dans lesquelles vous pouvez recevoir ces journaux. Alors, je vais commencer par Jean Madiran, puisque Jean Madiran est parti, je vais me substituer à lui. Présent, c'est 5 rue d'Amboise, dans le 2e arrondissement de Paris, 75002. Le téléphone est le 01 42 97 51 30. Et je crois que Jean a l'habitude de dire qu'on peut recevoir un spécimen de présent sur demande, et également qu'il y a des formules d'abonnement d'essai.
Oui, qui sont proposés. Mais maintenant, ils ont un site internet.
Il y a un site internet dont l'adresse doit être
présent.fr.
Présent.fr, il est formidable, Goffman. Après, il donnera le site internet du Libre Journal.
Et comment ?
Et comme ça, plus personne ne pourra l'ignorer. Je serais curieux d'ailleurs de savoir combien d'auditeurs de Radio Courtoisie recourent à l'internet. D'après ce que j'ai entendu récemment dans une émission, il y en a énormément. Et d'après les messages que je reçois sur le site, sur mon email personnel, mon courriel personnel, il y en a beaucoup effectivement. Ce qui est intéressant, c'est que ça vient du Japon, ça vient de Singapour, ça vient d'Australie, ça vient du monde entier. C'est vraiment ahurissant de voir à quel point. Notre radio est écoutée partout. J'ai reçu une lettre de Côme Carpentier de Gourdon qui me racontait qu'il est allé faire une conférence aux Indes. J'ai rencontré des gens qui étaient des lecteurs et des auditeurs de radio, des lecteurs du Libre Journal et des auditeurs de Radio Courtoisie, quand même aux Indes. Hein. C'est assez ahurissant. Alors on se plaint de ne pas avoir beaucoup d'abonnés. En France, peut-être, mais alors à l'étranger, ça marche. Camille Rivarol.
Oui, qu'on trouve tous les vendredis en kiosque. En principe, si les NMPP font leur travail, ce qui n'est pas toujours le cas, nous n'avons pas les mêmes relations privilégiées que le monde avec les NMPP. Mais en tout cas, on peut nous demander un spécimen par internet rivarol.com. ou en nous téléphonant au 01, je vous ai donné le numéro de présent. Donc, je reprends. Au téléphone 01 53 34 97 97. 01 53 34 97 97. Et nous ferons un plaisir d'envoyer un numéro gratuit.
Alors, le site internet, rappelons-le, rivarol.com.
Rivarol.com, et il y a également notre revue Écrite Paris, c'est les mêmes conditions, par internet, rivarol.com, ou le même numéro de téléphone.
Emmanuel Ratier, qui a une lettre confidentielle, et une lettre, enfin, pas une lettre, un petit courriel très, très, très intéressant qui est envoyé. J'espère que ce n'est pas envoyé uniquement à des privilégiés se trier sur le volet, que j'aurais trahi un lourd secret. Mais c'est bourré d'adresses passionnantes. Alors, d'abord le journal.
Enfin, oui, donc le journal, donc c'est Feuilles et Documents, BP 254, boîte postale 254, donc 75 424, Paris CEDEX 09. Donc j'enverrai un numéro aux gens qui le désirent. Par ailleurs, donc effectivement, j'ai un site internet qui est fait faits-documents.com, faits-documents.com, sur lequel on peut trouver en ligne une trentaine de numéros. Je mets pas des numéros récents, mais voilà. Et puis effectivement, à peu près une fois par semaine, j'envoie une lettre assez copieuse d'informations et de liens que j'ai trouvés sur internet. Il suffit de m'envoyer un courriel, on trouve ça sur le site. Et vous le recevez automatiquement, et c'est gratuit.
Et c'est bien, il y a beaucoup, beaucoup de choses très intéressantes. Monsieur Varane.
Oui, National Hebdo. Je conseille, au lieu de lire La face cachée du monde, de lire La face cachée de Le Pen.
pas tout à fait le même sujet. Et pas la
pas
même...
tout à fait le et... même sujet.
Mais c'est encore un trotskiste qui l'a écrit, non?
Je ne crois pas.
Non, bon.
Et bien, National Hebdo est à votre disposition tous les jeudis dans les kiosques. Que d'autre part, nous avons un site internet, c'est www.national-hebdo.com, et sur lequel vous pouvez, d'une façon quotidienne, avoir des informations. Merci.
Très bien. Et puis, Patrick Goffman, Le Libre Journal.
Le Libre Journal n'est pas dans les kiosques. Le Libre Journal n'est diffusé que sur abonnement. Et pour ma part, je trouve ça tellement plus chic. Trois mots.
C'est surtout beaucoup plus économique.
Et oui, ben oui, je veux pas revenir au NMPP une fois de plus, on en a déjà trop parlé ce soir, mais enfin bon, si on veut à tout prix leur donner 40% de ses recettes, on peut aller en kiosque.
C'est une question de, il faut quand même indiquer aux lecteurs,
c'est une question de stratégie,
et puis surtout de dimension. C'est vrai que pour Le Libre Journal, d'être en kiosque, ça serait de la folie, parce que on n'a pas encore l'assise nécessaire, mais des journaux comme Rivarol ou comme National Hebdo,
je plaisantais,
comme présent.
Vous faites bien de me reprendre, Serge, parce qu'il y a sûrement des auditeurs qui n'ont pas compris que je plaisantais, que je chahutais gentiment nos confrères. Et que je faisais surtout de nécessité vertu, oui, et que j'essayais de donner l'impression.
Vous savez qu'il y a des gens qui ont peur de recevoir, qui habitent dans des cités pourries, ouais, et qui ont peur de recevoir des journaux comme le nôtre, ouais, et qui préfèrent l'acheter dans des endroits très anonymes.
Ouais.
Les supermarchés notamment.
Alors, avant de donner nos références en trois lignes, le sommaire du numéro en cours 287, Camille Gallic de Rivarol a eu la gentillesse tout à l'heure de citer notre éditorial un peu spécial rédigé par un monsieur issu des milieux financiers de la bourse sur le probable accord secret Bush-Chirac, confirmé une semaine plus tard par le Canard enchaîné. Nous avons un document israélien exceptionnel sur deux pages pour, je cite, comment désintégrer le monde arabe. Nous poursuivons notre enquête sur où va la droite nationale, et ce sont dans ce numéro monsieur Le Gallou et Maigret qui nous répondent. Nous revenons sur l'affaire Thierry Ferrer dont nous avons parlé au micro. Et bien entendu, nous ne pouvions pas manquer de saluer le 50e anniversaire de la mort de Staline. Nous avons donc un article consacré un récit détaillé de ces derniers jours. Et nous revenons sur l'affaire du portrait de Staline par Picasso, qui avait causé un si grand scandale à l'époque.
Et puis il y a un papier de Bunel, faut dire.
Il y a également,
Commençons la publication d'un long document du commandant Bunel. Et quand je dis long, c'est une appréciation géographique, c'est pas une appréciation, esthétique. Il est pas long à lire, il est tout à fait passionnant sur
l'OTAN, Union européenne et folie internationale. C'est le titre général de ce grand feuilleton que entame le commandant Bunel, que nous disputent les éditions numéro 1 et Flammarion, voilà. Une de nos grandes signatures, aux côtés des signatures historiques de Serge de Beketch, il faut bien le dire, même s'il est là, et de François Brignot, qui est toujours là, sur deux pages entières lui aussi.
Alors, Brignot a fait dans ce numéro d'ailleurs un papier, on va dire encore fabuleux, mais c'est vrai. Oui, c'est
fabuleux, c'est le cas de le dire, puisqu'il commence par une fable.
Il commence par une fable de La Fontaine, rectifiée, et qui s'appelle Les deux collabos.
Alors,
je recommande la lecture, vraiment.
Puisque nous ne sommes pas en kiosque, on peut donc avoir un spécimen gratuit sur Internet en tapant libre-journal.fr.fm. On peut avoir un spécimen papier en envoyant $5 ou un carnet de timbre à notre adresse, et on peut s'abonner pour 110€ un an, 3 numéros de 24 pages par mois, à l'ordre de SDB, 4 place France Liste, 75010, Paris.
Alors, j'ai pas entendu, tu as dit si on veut un spécimen, on peut le recevoir, mais je précise pour des raisons qu'on comprendra aisément que Je demande aux auditeurs qui voudraient un spécimen d'avoir la gentillesse de joindre un carnet de timbres parce qu'on est très pauvres. Voilà tout simplement la raison. Et on a ça nous aide à faire face aux frais d'envoi. Bon. Le site internet du Libre Journal, c'est
libre-journal.fr.fm.
FM et... comme franc-maçon.
Voilà.
Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça.
Il me revient quelque chose que j'ai failli oublier une deuxième fois. J'ai déjà oublié la semaine dernière. J'ai appris que un des points communs entre Serge et Daniel de Bekech, c'est qu'ils avaient reçu tous les deux du papier bleu récemment, et on leur réclame, je crois, plusieurs milliers d'euros ou de dollars pour des mauvais propos qu'ils ont tenus, qu'ils ont dit, qu'ils ont écrits. Malheureusement, je m'empresse de dire aux éditeurs que la loi interdit de demander de l'argent, de lancer un appel au peuple pour payer des amendes personnelles. Donc, qu'ils n'envoient surtout pas d'argent pour payer ces amendes. Et qu'il se contente, ce qui n'a aucun rapport, d'envoyer 110 euros pour s'abonner ou 100 euros pour abonner un ami au Libre Journal, 4 Place France Liste, 75-010, Paris.
Merci, Patrick. Enfin, j'aime beaucoup ce garçon. J'aime beaucoup ce que vous faites, Gaspard. Bien, mon cher, oui, Jean-Claude, tu as donné toutes les indications. Non, tu n'as pas donné d'indications.
J'ai donné toutes les indications.
Oui. Eh bien, je te remercie. Alors, au prochain clan de la presse, dans un mois à peu près.
Demain.
Et puis à demain, bien entendu, pour la réunion des directeurs. Parce que je peux dire en confidence aux auditeurs que tous les mois, on fait une réunion des directeurs de la presse de la famille. Mon cher Pierre Descaves, j'ai bien le plaisir de vous recevoir à ce micro, parce que vous êtes un homme rare, et pas cher. Je leur dis que tout ce qui est rare est cher, mais vous m'êtes cher à moi, mais pas cher en monnaie. Je veux dire. Alors la surprise, c'est que Pierre Descaves, qu'on connaît pour beaucoup d'autres raisons, on connaît pour son combat au moment de l'Algérie française, son combat courageux, le mot est faible, son engagement... payé très cher, on le connaît pour son engagement politique aux côtés de Jean-Marie Le Pen et pour son engagement au Front National, mais on ne le connaissait pas comme auteur de romans de science-fiction. Est-ce que c'est bien de la science-fiction? Je me pose la question et je vais vous la poser, Pierre. Mais avant, je voudrais, ça n'a pas grand-chose à voir, vous demander de prêter l'oreille à un disque que nous a apporté Goffman et dont il nous dira après ce qu'il est. J'ai trouvé que cette musique était particulièrement belle. Ça va détendre un peu l'atmosphère. Et puis après, nous pourrons entamer cette conversation sur votre livre. avait Maria pour le mercredi des cendres, ça tombe très bien, si j'ose dire. Qu'est-ce que c'est, cette voix extraordinaire?
Alors, nous venons d'entendre un Ave Maria de Caccini, avec la voix, en effet, assez exceptionnelle de Ludmila Fedorov. Mais bon, c'est quand même une soliste du Philharmonique de Kiev. Si nous en parlons, c'est que, naturellement, nous avons... quelque chose d'intéressant pour les auditeurs de Radio Courtoisie. Alors ne sautez pas par pitié, ne sautez pas sur nos standardistes bénévoles pour leur demander les références du disque et où on le vend. C'est une exclusivité Radio Courtoisie, le libre journal ou peu s'en faut. Mais rassurez-vous, si vous avez aimé, et vous êtes certainement nombreux à avoir aimé cette voix magnifique, vous pouvez l'entendre pendant 2 heures dimanche prochain et gratuitement, puisque donc Yuri et Ludmila Fedorov, solistes du Philharmonique de Kiev, offrent aux Parisiens musique traditionnelle d'Ukraine, œuvres classiques et chants sacrés comme celui que nous venons d'entendre, dimanche prochain, 9 mars, à 16h, en l'église Sainte-Rosalie, 50 boulevard Blanqui, Paris 13e, métro Corvisart. Alors pour ceux qui veulent à tout prix se procurer ce disque, je ne peux que leur donner un numéro de téléphone, celui d'Anne-Marie Lostis qui représente donc les Fedorov à Paris, 01 43 37 86 55.
Et c'est pas seulement un disque de musique sacrée, comme Patrick l'a expliqué, il y a quelques morceaux de musique sacrée qui sont fort beaux, mais il y a de la musique traditionnelle ukrainienne qui fait vibrer le cœur. Mais ce soir, c'était pour les cendres, l'Ave Maria s'imposait. Est-ce que vous avez aimé, Monsieur Descaves, cette musique?
Tout à fait, j'étais rêveur d'ailleurs, j'étais plongé dans cette belle musique.
C'est bon.
Et je pense que si je pouvais aller au concert, j'irais bien volontiers.
Alors, on va parler des aventures de Arnold de Saint-Glinglin. Alors, c'est vraiment inattendu ce bouquin, hein, parce que ça s'appelle La guerre des immondes. Bon, décidément, on n'en sort pas.
Non,
ouais. Et le sous-titre est « La France survivra-t-elle à ce conflit ?» Et c'est l'aventure de... C'est une aventure française. La France est envahie par des extraterrestres. Ou plus exactement, un des extraterrestres décide de révéler le plan d'invasion de la France par les habitants d'une autre planète qui s'appelle les Nedor. N-E-D-O-R-S, et il expose ce plan. Donc, en quelque sorte, Pierre Descaves, sous les apparences d'un personnage qui s'appelle le Furtif, rencontre cet extraterrestre qui lui fait ses confidences, et il rapporte les confidences de l'extraterrestre. Ce qui est une façon, disons-le clairement, de parler d'une actualité particulièrement brûlante. Mais avant, je voudrais quand même faire une mise au point. C'est un livre à clé, mais il ne faudrait pas s'y tromper. D'ailleurs, il se termine par une série de démentis en cascade. Parce qu'il y a voilà les personnages qui sont... Il y a un personnage qui s'appelle le chef, il y a un personnage qui s'appelle le samouraï, il y a un personnage qui s'appelle Regard d'acier, un personnage qui s'appelle Saint-Glinglin, on en a parlé. Il y a un personnage qui s'appelle Main de fer, un personnage qui s'appelle le baroudeur, un autre qui s'appelle Crésus, etc., etc. Et alors... Curieusement, pour des raisons que je ne tenterai pas de tirer au clair, peut-être que Pierre sera capable de nous dire pourquoi, diverses personnalités ont tenu à faire savoir qu'elles n'étaient pas les personnages en question, qu'elles n'avaient pas inspiré les personnages en question. Par exemple, Jean-Marie Le Pen dit « Je ne suis pas et je ne peux pas être le chef, puisque mon nom issu du breton signifie la tête. Par ailleurs, on me surnomme généralement le menhir. Au surplus, il y a sans doute des ressemblances avec ce qui a été ma vie, mon combat politique, mais aussi des divergences sérieuses. Et j'apprécie que l'auteur ait pu dire en avertissement à ses lecteurs qu'il ne s'agissait que d'une œuvre de pure imagination et que les personnages décrits n'ont jamais existé. Hein. » Golnisch dit « Faire de moi un samouraï, ce guerrier qui saute au-dessus des maisons, ne peut constituer qu'une affabulation. » Karl Lang qui a à faire savoir que l'appeler « regard d'acier » est un abus de langage puisque son épouse trouve plutôt que son regard évoque le bleu du ciel et la limpidité de la mer, ce qui prouve que c'est une poétesse scandinave. Jean-Claude Martinez refuse catégoriquement d'être assimilé à Saint-Glinglin, et pourtant... Non, le visionnaire, pardon. Au visionnaire, voilà. Pierre Descaves, lui, il dit c'est pas moi le furtif. Bon. Roger Olyndre nie être le baroudeur. Jean-Pierre Revaux, alors avec beaucoup plus de ressemblance d'ailleurs, dit qu'il n'est pas Crésus. Christian Bécrout refuse, alors là, contre toute vraisemblance au contraire, d'être assimilé à l'inflexible. Martine Le Hideux dit qu'elle n'est pas du tout intrépide. Et Marie-France Tirebois ne dit rien, elle se contente de demander qui est cet Arnold de Saint-Glinglin qui a osé suggérer que je puisse être ce personnage à l'attaque fulgurante et à la morsure mortelle. Alors, voilà les personnages. Maintenant, vous savez qui ne sont pas les personnages du livre.
C'est un roman à fausse clé, si je comprends
bien. Bon, alors, ça montre que quand même, c'est un roman où on a très envie de rire. À de nombreux moments. Et le problème, c'est qu'à chaque fois, on tombe sur des choses qui sont tellement moins drôles, tellement moins risibles, bien que ce soit de pure imagination, qu'on finirait par croire que c'est la pure vérité. Alors, qu'est-ce qui vous a donné l'idée, Pierre, après la carrière que je résumais très brièvement tout à l'heure, de vous transformer en écrivain de science-fiction ?
Oh, l'idée, elle m'est venue du fait que dans notre pauvre pays aujourd'hui, il n'est plus possible d'exprimer des pensées, des idées, des propositions dès lors qu'elles vont à l'encontre de ce que l'on est autorisé à dire par toutes ces autorités morales autoproclamées. Et j'en ai relevé un exemple. Dans l'objet de ces associations qui persécutent tous les nationaux que sont la Ligue des droits de l'homme, la LICRA, le MRAP, etc. Et voilà l'objet de l'un d'entre eux, mais il est le même pour tous. Hein. Cette association a pour but de lutter, de combattre l'injustice, l'illégalité, l'arbitraire, l'intolérance, toute forme de racisme et de discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, les mœurs, l'état de santé, le handicap, les opinions politiques, philosophiques, religieuses, la nationalité et plus généralement, parce que ça n'est pas assez, toute atteinte au principe fondamental d'égalité des êtres humains. Quand on en arrive là, hein, à avoir des associations, elles sont plusieurs, qui ont pour objet de combattre toute pensée qui ne serait pas autorisée par ces lobbies qui veulent diriger le monde, eh bien, il faut se rebeller. Alors, il y a deux systèmes de rébellion. Mais il y en a un qui coûte très cher. Vous attaquez l'ennemi directement en face et en le dénommant. Et nous avons eu dans la famille... notamment Rivarol, Présent, et puis peut-être sans doute d'autres que je connais moins, des procès qui ont coûté très cher et qui ont failli les abattre. Alors j'ai cherché une méthode, parce que bon, je suis un petit peu humoriste, et donc la méthode que j'ai trouvée est de faire intervenir un peuple qui n'est pas visé dans ce qui est interdit. On a le droit de parler des extraterrestres.
Pour l'instant.
Pour le moment. Je pense qu'après mon livre, peut-être qu'ils vont se voir qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Et donc, je suis arrivé à dire tout un tas de choses. Et je vais vous donner un exemple de ce que je suis arrivé à dire. J'ai entendu tout à l'heure que vous parliez de la réconciliation, que Chirac a été... donné ou sollicité, je ne sais pas quel est le terme, auprès des Algériens. Alors moi, j'en ai parlé. J'ai parlé de ce qui nous était arrivé à nous, Français d'Algérie, et de la manière dont on nous avait traités. Mais bien évidemment, c'était l'aîné d'or qui avait influencé un général à titre provisoire qui avait mené la bataille. La fin de l'Algérie française permit aussi de révéler des trahisons et des agissements répugnants de bassesse émanant des autorités légales sous influence des Nédors. Le massacre à Alger-Rudisli le 26 mars 62, organisé par l'armée française sur ordre du gouvernement, se traduisit par 82 innocentes victimes civiles et 200 blessés, dont plusieurs dizaines très gravement. Ne s'agit-il pas d'un acte passible de poursuite devant le tribunal pénal international de La Haye ? L'odieuse tuerie d'Oran des 5 et 7 juillet 62, organisée par les terroristes FLN, devenus les alliés du gouvernement français, se traduisit par la mort et la disparition de 5000 Français d'Algérie. Elle eut pour témoin passif des soldats français auxquels le gouvernement avait donné l'ordre de ne rien faire pour sauver les vies de ses compatriotes en danger de mort. N'est-ce pas un délit que de s'abstenir de secourir une personne en danger ? Et 5000 personnes, n'est-ce pas 5000 fois plus répréhensible ? Si le gouvernement a pu donner cet ordre inhumain, d'autres l'ont exécuté. Que penser de ces soldats de France, de ces officiers, de ce général, appelé à juste titre le boucher d'Oran, restant passif en entendant les pathétiques appels au secours de ceux qui vont être ignoblement torturés avant d'être atrocement exécutés? N'y a-t-il pas dans ce fait un acte de complicité de meurtre prémédité, de crime contre l'humanité? Pourtant, sauver des vies humaines, des vies de citoyens français, n'était-ce pas à l'époque la mission de notre armée? Ces hommes, ces officiers, ce général, sans cœur et sans entrailles, ont obéi sans brancher, sans dégoût de leur comportement. Cette complicité ne sera-t-elle jamais jugée, jamais punie? Enfin, dernière lâcheté la plus cruelle de ce gouvernement, de cette armée, la livraison à l'ennemi FLN des soldats français d'origine nord-africaine ayant combattu à nos côtés. Qu'y a-t-il de plus ignoble que de voir des responsables politiques, des officiers livrer 150 000 de leurs soldats à l'ennemi, sachant qu'ils allaient être abominablement torturés avant d'être ébouillantés, dépecés vivants? Et le peuple français, sous influence des nés d'or, de leurs complices, de leurs obligés, de leurs stipendiés, a tout accepté, a tout ratifié, comme s'il était drogué, abêti, incapable d'une réaction humaine, de dégoût et de regret. Oui, vraiment, Secrétor a bien travaillé. L'âme du peuple français s'est désintégrée, tandis que disparaissait ce qui était l'honneur de l'armée, le respect de la parole donnée.
Alors ça donne bien, c'est un extrait qui donne bien le ton du livre. D'ailleurs, c'est un livre de colère, mais où cette colère est ponctué du rire de l'amertume. Je sais pas si c'est vraiment le rire de l'amertume, mais il y a toujours, par exemple, l'intervention de ce secrétaire. Alors, l'auditeur qui entend ça, de se dire, mais attendez, de quoi il nous parle d'un seul coup, secrétaire? Alors, il faut dire, en lisant le bouquin, on découvre que, donc, en 1950, année terrestre, les habitants d'une planète qui s'appelle Nédorius, pour des raisons matérielles, parce qu'il manque d'eau, décide de conquérir la Terre. Et les voilà partis à la conquête du plus bel endroit de la Terre, qui est naturellement la France. Alors, cette invasion est réglée, ordonnée et mise en ordre par un haut conseil composé de sages qui ont formé l'état-major de guerre. Et alors, sont présents dans cet état-major de guerre des spécialistes, qui sont argenteurs, spécialistes des manipulations économiques et financières, désinformateurs, spécialistes de la manipulation des foules, politicors, spécialistes de la subornation des hommes politiques, secrétaires, spécialistes des opérations secrètes, et également coordinateurs, chargés d'assurer la coordination de l'ensemble des opérations. Alors c'est une idée, je trouve ça une idée géniale, parce que ça permet d'expliquer les événements contemporains, selon une théorie que nous connaissons bien, mais à l'abri, je dirais, de les choses clairement, de la fiction. Et bon, je pense que ça va être difficile de vous traîner une fois de plus devant les tribunaux, Pierre.
Je pense y échapper, d'autant plus que quelquefois mes allusions sont assez transparentes. Bon, moi je dis que les nés d'or ont créé des sociétés secrètes pour pouvoir y faire rentrer tous les gens qui sont leurs complices, leurs stipendiés ou leurs obligés. J'ai fait un amalgame de ces trois choses. Et ces sociétés secrètes sont les cousins trois étoiles qui ont pour emblème la gamelle et le piston. Bon, il faut dire que...
Ça n'a rien à voir avec les Kier et le compas. Hein, il
faut ça n'a rien à voir avec les frères trois points, avec le compas et les
Non, il ne faut pas confondre.
Pas d'amalgame. Pas se tromper. Alors si quelqu'un le dit, moi j'y suis pour rien.
Mais alors, où le bouquin va plus loin quand même, c'est qu'il ne se contente pas d'exposer une situation, parce que c'est, ça serait amusant, mais ça va un tout petit peu plus loin.
Plus loin.
C'est-à-dire que là, on retrouve le Descaves de l'époque évoquée dans le chapitre que vous citiez tout à l'heure, qu'il y a des gens qui décident de résister. Et donc c'est l'histoire d'un combat de la résistance contre la dictature de ces extraterrestres.
Oui, d'ailleurs il y a un peu plus, parce que les extraterrestres ont décidé d'avoir une double action. Une action sur l'économie, parce qu'ils veulent tout s'approprier, hein, ils veulent rien laisser. Alors, sur l'économie, la mondialisation qu'ils veulent créer passe par l'Amérique, c'est-à-dire là, Argentor, par exemple, qui est celui qui s'occupe des finances, est à New York, il n'est pas en France. Les autres sont en France, parce qu'il y a aussi un besoin d'installer sur une terre favorable la population née d'or. Donc j'ai un double intérêt. D'abord la mondialisation à combattre, et on explique comment, et l'envahissement du territoire, ils veulent changer la population française.
Ouais, ça, c'est de pure fiction. Alors.
C'est de la fiction totale. Ouais. Personne ne peut penser qu'on est en train de réaliser cet objectif, mais les nés d'or veulent le faire. Alors effectivement, pour des gens qui abandonnent, qui s'abandonnent, qui pensent que résister n'est pas nécessaire parce que de toute manière on a perdu d'avance, c'est vrai que des extraterrestres, ça fait peur. Et quand on voit la coalition des intérêts contre notre peuple aujourd'hui, on peut se demander si c'est pas encore plus fort que les extraterrestres en question. Et donc, effectivement, ceux qui veulent résister créent un conseil de résistance qui est animé par Furtif. Furtif est un gars qui a combattu dans le temps et qui a réussi à ne pas se faire prendre, à passer à travers tous les pièges que pouvaient tendre les autorités, que pouvait tendre la police, et qui semble assez qualifié pour animer un nouveau mouvement de résistance.
Mais qui Une espèce d'organisation armée secrète.
Oui, mais qui doit être totalement différent, car ce qui a fait la faiblesse d'une organisation armée a été la construction hiérarchique. Avec carnet d'adresse, numéro de téléphone, lien, rendez-vous, tout ça. Donc, il est apparu à ce Furtif que il fallait un autre système, et sa théorie est que 100 000 petits chefs de 5 personnes qui se connaissent chacun n'ont pas besoin d'avoir ni carnet d'adresse, ni rien du tout. Quant aux mots d'ordre, notamment depuis l'apparition d'Internet, ils peuvent être d'une part très généraux et d'autre part donnés par voie de email.
En réalité, c'est sous les dehors d'un livre de science-fiction amusant, c'est un état de la situation et une proposition pour en sortir.
Absolument. Hein? Absolument, je pense que si on ne veut pas périr, si le peuple de France ne veut pas disparaître, il devra tôt ou tard se battre. Et autant préparer...
Contre les extraterrestres.
Ah ben contre... Ah ben,
oui, bien sûr, que les choses soient bien claires.
Je n'ai pas d'autre adversaire que les extraterrestres. Et donc, s'ils veulent faire, eh ben, il faudra qu'ils s'organisent et que cette organisation permettent de ne pas être démantelés dès les premiers instants. Donc chacun épuisera ce qu'il veut épuiser. Il n'est pas d'ailleurs exclu que dans un second ouvrage, on voit la résistance s'organiser, mais peut-être, j'ai pas encore, Furtif ne m'a pas encore dit qu'est-ce qu'il voulait faire. Est-ce qu'elle s'organisera après la débâcle en France ou est-ce qu'elle s'organisera avant? Je ne sais pas encore.
Et après la victoire de la résistance, il y aura un livre à écrire, mais ça sera un vrai. Alors, alors c'est un livre qui se lit très très facilement, parce qu'il faut quand même savoir que Pierre Descaves n'est pas que le militant que je décrivais tout à l'heure, il est quand même docteur en sciences économiques, ce qui n'est pas une bonne référence d'ailleurs pour écrire un bouquin de science-fiction, mais... Ça ne déteint pas sur le bouquin. Le doctorat en sciences économiques, Dieu merci, on s'en aperçoit pas. Il est licencié en droit, diplômé de l'Institut de droit des affaires, expert comptable. Toute raison qu'il faut écarter quand on lit le bouquin, parce que ça, encore une fois, ça ne se sent pas. En revanche, il est combattant de la première armée française en 44-45, volontaire lors des combats de la libération de la France à la poursuite de la poursuite de l'ennemi du Rhin au Danube, ce qui vous exonère, mon cher Pierre, du soupçon de...
J'ai été traîné par la LICRA devant un tribunal correctionnel récemment pour avoir dit, et là j'ai été d'une prudence de sioux, j'ai dit qu'un détail était la partie d'un tout, et à partir de cette définition que j'ai donnée, moi j'ai pas dit un détail, j'ai dit un détail qui est la partie d'un tout. J'ai donné ma conception de ce que l'on pouvait considérer comme un détail de la partie d'un tout. Et j'ai pris comme exemple, j'ai dit, voyez, les 6 millions, on peut pas les discuter, il y a 6 millions de juifs qui sont morts. On peut pas le discuter parce que le tribunal...
Tu crains pas, en répétant ce qui t'a valu de comparaître devant le tribunal?
Pas du tout. Non, mais tu vas voir.
Je deviens prudent, moi.
C'est pas jugé encore, hein. Mais je vois pas comment, parce que j'explique bien, j'ai dit 6 millions. Donc on peut pas me reprocher d'être révisionniste ou négationniste ou tout ce qu'on veut, puis j'ai pris le chiffre du tribunal qui n'est pas de 6 mais de 5,8 d'ailleurs, mais enfin passons. J'ai repris 6, tu vois, si je suis généreux. Mais j'ai dit, le tribunal de Nuremberg n'a pas donné le nombre de morts dans les chambres à gaz. Alors certains disent qu'il y avait, d'autres qu'il n'y avait pas, c'est pas mon problème. Moi je dis, il n'a pas donné de chiffre. Alors, faisons une estimation.
Oui, mais ça, c'est très dangereux, les estimations.
Mais non.
C'est laissé à l'appréciation individuelle.
Et ça peut plus être du négationnisme, puisqu'il n'y en a pas. Tu comprends l'histoire? On peut traiter de négationniste celui qui nie quelque chose qui existe.
Oui.
6 millions, ça existe. 5,8.
Mais le chiffre des morts dans les chambres à gaz n'est pas indiqué.
On dit qu'il y avait des chambres à gaz.
Oui, mais ça, bon.
Ok, il y en a. Mais... qu'est-ce qu'on peut mettre dans les champs campions? On peut en enfourner. Et moi, je suis arrivé à 400 000,
bon, 200 000. Mais ça, cette appréciation, c'est une évaluation personnelle.
Personnelle.
Mais il ne s'agit pas de nier l'existence.
Rien.
On est bien d'accord. D'accord.
Rien.
Faut que ce soit précisément indiqué.
Alors
donc, les organisations en question vous ont poursuivi pour ça.
Oui.
Et le procès est pendant.
Ah oui, j'attends. D'ailleurs, c'était très amusant. Le jour de l'audience, parce que le journal qui servait de support à ça est un journal gauchiste, et ils étaient traînés aussi en correctionnel avec moi, ce qui m'a beaucoup amusé. D'ailleurs, le directeur est venu me saluer.
Ça, c'est de la vraie subversion, alors, d'arriver à faire traîner un journal de gauche devant les tribunaux.
Oui. Ils étaient mortifiés, d'ailleurs.
Le journal suisse dit, ce serait pas le Courrier Picard, par hasard?
Bien sûr.
Il me semble qu'ils ont eu leur journaliste qui a eu des gros ennuis avec la justice.
Alors ça, pour le procès suivant, parce que je pense qu'il y en aura un autre. Ça va sortir, parce que le Philippe Houbard...
C'est une très vilaine histoire.
Qui a indiqué Philippe Houbard, probablement, parce que...
Enfin, en tout cas, pour l'instant, il est en examen.
Ah, oui. Il a été pris la main dans le sac.
Oui, on peut dire ça comme ça. Enfin, je ne savais pas que ça se passait dans un sac, mais enfin...
enfin, peu importe.
Il est mis en examen avoir détenu des documents illustrés que la morale réprouve sur son ordinateur.
Alors,
entre deux éditos vengeurs contre les fascistes, fascistes, les nazis,
la vermine qui s'infiltre dans la fac.
La vermine nationaliste s'infiltre dans la fac. Il se reposait l'esprit en regardant des photos de petits garçons et de petites filles. C'était pas des photos de mode sur son ordinateur. Et il s'est fait prendre. C'est Bécasson. Alors, il va plaider, bien entendu, que c'est dans le cadre de ses investigations journalistiques.
Ce n'est pas seulement, c'est pas seulement le fait principal, c'est pas du tout, c'est pas en partie pour ça qu'il est inculpé, c'est parce qu'il était membre de sites diffusant ce genre de photos. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il avait les photos, mais il était membre de.
Producteur.
Voilà, c'était autre chose.
Alors, si vous avez du temps à perdre, si le sujet vous amuse, il faut vous aller sur Internet et vous tapez courrierpicard.fr.com, je ne sais plus.
Point com, je pense.
Et vous essayez de retrouver les papiers de ce grand donneur de leçons. Et là, vous allez quand même vous payer une panne de bon sens. Quand on regarde ça du point de vue qu'on peut occuper aujourd'hui en connaissant cet aspect de la personnalité du bonhomme, c'est tout à fait rigolo. Il y a notamment un papier irrésistible de drôlerie dans lequel il dénonce un projet de construction d'un terrain de football sous les fenêtres d'une barre HLM. Et il explique que c'est très dangereux de montrer des enfants comme ça devant une barre HLM, parce que tous les gens de la barre HLM vont voir ces enfants en train de jouer au football. Et alors on s'attend à ce qu'il prête à tous les habitants de la barre HLM les sentiments que lui-même entretient. Et pas du tout, c'est parce que comme les habitants de la barre HLM sont des franchouillards et que les enfants qui vont jouer sur le terrain de football ne sont pas des franchouillards, pas forcément, il n'y a pas que ça, il craint qu'il y ait un coup de fusil qui parte et qu'on passe de la chronique sportive à la chronique du fait divers. Mmh. Donc on voit quand même que c'est un personnage qui est un petit peu tordu.
Lui, il est passé dans la chronique fait divers.
Tout ce journal est du même effet.
Alors, Pierre Descaves, la guerre des immondes, la France survivra-t-elle à ce conflit? La réponse est oui, quand même, on peut le dire.
J'essaierai de faire en sorte qu'elle s'en
sorte. Et c'est vendu aux éditions
Godefroy de Bouillon, 40 rue de la Croix-Nivert, dans le 15e. Le livre coûte 17 euros et si on demande qu'on vous l'envoie, c'est 20 euros. Il y a 3 euros frais d'envoi.
Il doit se trouver chez Duquesne ou non, il n'est pas dans les librairies.
Non, par contre, j'ai vu que certains de nos amis qui ont des catalogues
Randall propose sur son catalogue.
Je crois que c'est dans le catalogue.
C'est du Alpha.
Du Alpha.
Voilà, le catalogue du Alpha. Et puis, je pense que nos amis de Duquesne vont le mettre en boutique parce que.
Dualpha.com pour commander en ligne.
Oui, alors on peut commander en ligne et payer en ligne aussi, c'est bien commode.
Il y a aussi au front FN60, 11 rue de Grèce, qui ont bien voulu m'en prendre un paquet.
Ils n'ont pas tellement eu le choix, parce que sauf erreur de ma part, vous avez un petit rôle.
Je leur laisse les 5 euros de différence entre le prix d'achat et le prix de vente.
Qu'est-ce que c'est 60
L'Oise.
L'Oise, ah oui.
Et 6400 Noyon.
Donc Pierre est un élu, alors. Il est le patron du FN local, et donc il leur a dit, j'ai une bonne surprise pour vous.
Non, je ne suis plus le patron, je me suis retiré de la gestion courante parce que j'ai plus l'âge. À 78 ans, on aspire à un peu de repos. Je ne serai plus candidat aux élections.
Fontaine, je ne vois pas de tonneau. C'est vrai que quand Pierre dit
quelque chose. Tu sais, moi, je ne suis pas du genre à dire ce que je ne sais pas.
Non, c'est vrai.
Et ce que je peux te dire, c'est que ça me libère un peu pour pouvoir dire plus facilement ce que je pense, parce que je suis plus direct et moins conciliant que la plupart de mes amis du FN.
Voilà un aveu. Qui pèse son poids. Merci Pierre. Je rappelle le titre de ce livre, La guerre des immondes. C'est aux éditions Godefroy de Bouillon, 17 euros ou 20 euros par correspondance. Et vous pouvez le commander sur le catalogue dualpha.com si vous avez Internet. C'est très commode. Je me tourne maintenant vers mon jeune camarade Fersan. Alors d'abord, Fersan, je vais être obligé de vous tirer les oreilles parce que
Je sais pourquoi et je donne... Voilà, donc
avant... d'abord vous tirer les oreilles, après vous présenterez des ultimes.
La défense après.
Voilà. parce que j'ai beaucoup de messages de gens qui me reprochent d'avoir réchauffé dans mon sein
une vipère lubrique.
Une vipère, je sais pas lubrique, je dirais pas ça, mais une vipère...
Miguetienne, dirons-nous.
Bon, je vous laisse le choix de l'adjectif. Donc, si j'ai bien compris, vous avez annoncé la prochaine publication d'un ouvrage qui se fait attendre
pesamment, oui.
Des souscripteurs, c'est-à-dire ces gens qui vous ont envoyé des sous.
Et qui grognent à juste titre parce que le livre a un retard babylonien.
Oui, on peut dire ça comme ça.
Voilà, donc j'ai une bonne nouvelle pour tous nos auditeurs.
Alors, pratiquement, ceux qui ont prévu de faire un enfant au moment où ils ont envoyé le chèque, l'enfant pourra lire le livre quand il arrivera directement.
C'est à peu près ça.
Même avec l'éducation nationale actuelle.
Voilà, donc je tiens à rassurer ces auditeurs et même leur communiquer une excellente nouvelle, le livre en question est fini. Il est actuellement à la correction. Voilà.
Ah bon.
Donc il sera mis.
Il faut encore qu'il soit imprimé après.
Voilà. Donc après, la correction qui est entre les soins de ma correctrice personnelle.
Et familiale.
Et familiale.
Vous vous faites corriger en famille.
Oui, c'est.
C'est bonne maman et.
C'est bonne maman qui est. On peut le dire, est institutrice à la retraite.
Elle n'est pas trop sévère quand elle vous corrige.
Ah, c'est une institutrice vieille école. Hein. Je vois Victoria qui hausse les sourcils.
Au coin, les mains sur la tête.
J'ai passé l'âge.
Et alors, ça s'appelle l'imposture antiraciste.
C'est le mensonge antiraciste.
Le mensonge antiraciste,
c'est la suite de l'imposture antiraciste, avec notamment quelques révélations assez intéressantes sur l'anturbané le plus célèbre du monde.
Et alors, toutes ont bu, en dépit du temps que vous avez mis à ne pas terminer cet ouvrage, vous avez entre-temps publié des trucs qui n'avait pas été acheté par souscription, dont je vois une chose étrange, qui s'appelle le journal de Turner.
Turner.
Je me rappelle des souvenirs, mais de quoi s'agit-il ?
C'est un roman qui a très très bien marché, donc c'est la nouvelle traduction d'un roman qui a très très bien marché aux États-Unis, puisqu'il a été vendu, donc sous son titre original américain, The Turner Diaries, il a été vendu à 500 000 exemplaires aux États-Unis.
Sous le manteau.
Sous le manteau.
Préciser. C'est ça, c'est qui est extraordinaire. Voilà. C'est qu'il a été vendu clandestinement à 150 000.
À 500 000 exemplaires. Un demi-million.
Non, ça, je crois que c'est la vente normale. Ouais. Avant d'être mis aux éditions Barricade sur le marché légalement, il a été vendu illégalement à 150 000 exemplaires. C'est ça qui est extraordinaire. Et maintenant, évidemment, ça flambe.
Vous allez enfin pouvoir payer votre abonnement au Libre Journal. Alors, si vous allez...
Donc j'ai refait la traduction puisque la traduction française qui circulait était
pas à votre goût.
Pour le moins légère, dirais-je.
Oui.
Avec notamment, disons que la personne qui a traduit ça était, j'en suis persuadé, un excellent militant nationaliste, parlait parfois très bien l'anglais, mais à mon avis il manquait quelques connaissances en américain qui divergent de l'anglais. Et notamment, c'était maillé par-ci par-là de quelques contresens pour le moins fâcheux.
Le plus joli contresens que je connaisse personnellement dans une traduction, c'est une traductrice qui, ayant lu dans un récit de naufrage où un bateau récupérait un naufragé qui montait à bord en disant « I'm hungry and thirsty ». Et la traductrice avait écrit « Je suis hongrois et j'ai 30 ans ». C'est quand même assez joli.
C'est beau comme du Georges Bush.
C'était Jean Bourdier qui racontait ça il y a 30 ans. Mais ça, c'est très très joli.
Alors donc, non seulement on va revenir au journal de Turner, non seulement la traduction a été refaite dans son intégralité, mais en plus, il y a donc dans cette nouvelle édition 6 dessins originaux réalisés par notre excellente dessinatrice Char, que je salue au passage, qui a la gentillesse de nous faire 6 dessins, donc illustrant les moments forts du livre, et qui donc agrémente ce dernier.
Bien, alors, voilà. C'est tout ce que vous avez à nous annoncer. Vous continuez à faire votre hebdomadaire, oui, par exemple, une fois par semaine?
Mon hebdomadaire continue son petit bonhomme de chemin. Donc dans le numéro qui va sortir demain, donc le numéro du 6 mars. Alors en éditorial, il y aura
Je peux interjeter une question sur Turner Diary que j'ai lu avec passion moi en version originale. Dès que ça a été un livre légal, ma famille me l'a envoyé dès que ça a été légal. Donc je voudrais savoir si c'est légal en France et j'espère ne pas gaffer.
Je pense que, comme il l'a dit, ça doit être légal.
Oui, je peux vous dire que le livre qui s'appelle Le Journal de Turner n'est pas interdit en France.
Voilà, c'est tout.
Voilà, Le Journal de Turner n'est pas interdit en France.
Alors, donc votre hebdomadaire paraissant une fois par semaine
Qui paraît le jeudi. Donc le numéro qui va sortir demain. Alors, il y aura notamment un best-of de la pensée... une compilation.
Un florilège.
Un florilège de citations montrant toute l'étendue de la puissance intellectuelle de M. George Walker Bush, Jr., président des États-Unis. Avec notamment cette phrase qui résume, j'en cite une quand même pour le plaisir, qui résume toute la philosophie de l'homme le plus puissant du monde quand même. La majorité de nos importations viennent de l'étranger.
Ouais. Bah, au moins, pour une fois qu'il dit pas une bêtise, il dit pas un mensonge.
Hein? Ça me rappelle le Père Noël est une ordure, la pièce de théâtre où il disait au départ, il est prouvé statistiquement qu'il y a deux fois plus de suicides chez les désespérés que chez les autres personnes.
Bon, il y en a une autre là que je note aussi. Les Français ne disposent pas d'un mot pour dire entrepreneur. Quand même beau, ça.
Les Grèciens, en revanche, doivent disposer.
Les Grèciens doivent fouler. C'est vrai que quand on regarde George Walker Bush Jr., c'est quand même, je m'adresse aux cinéphiles et aux amateurs de l'humour Zucker, Abraham Zucker, c'est quand même le président des États-Unis qui a réussi à faire de Hot Shot 2 un documentaire. Même l'amiral Benson dans Hot Shot 2 est moins...
Alors arrêtez de dire du mal de nos amis américains, vous êtes insupportables.
Je vais encore me faire traiter de sadamite.
Oui. Alors, où est-ce qu'on peut se procurer votre journal passionnant ?
Alors, mon hebdomadaire, avant que moi aussi je reçoive du papier bleu. Enfin, moi,
pas
moi, j'ai le droit à la saisie, moi, personnellement.
C'est bien.
Ils ont saisi.
Votre ordinateur ?
Alors, pas mon ordinateur, ils ont saisi ce qu'il y avait sur mon compte, et ça tombe bien parce qu'ils ont saisi justement qu'il n'y avait rien.
Il y a un jour par an où il y a un peu d'argent, ils ne sont pas tombés dessus.
C'est un avis à tiers détenteur qui me détenait
rien. À tiers non détenteur.
À tiers non détenteur. Donc on peut se le procurer aux publications Henri de Fersan, 4 routes de Bournazet, Bournazet, Bellevue, c'est le lieu dit.
Vous regardez le nom bien que vous y soyez.
Voilà. Ils vont débaptiser bientôt. 63 870 Orsines. Orcines. Alors, les publications Henri de Fersan ont leur site internet. www.hdf.fr.fm.
Ah, c'est comme moi, tiens.
Voilà. On doit peut-être avoir le même passe-tête. L'abonnement du journal est de 156 € par an pour 52 numéros. On peut bien sûr payer, il y a une possibilité de s'abonner par trimestre à 39 € le trimestre. Ou on peut avoir un numéro d'essai en envoyant un carnet de timbre à l'adresse.
Vous êtes vraiment un copieur, vous. C'est incroyable.
Ah non, je suis pas un copieur. Je suis un.
Il l'a appelé le libre arverne.
C'est un caméléon que vous avez réchauffé sur votre sein.
C'est pas une vipère lubrique. Alors, où commande-t-on le journal de Tournai, nous demande un auditeur.
Ben, je donne l'adresse aux publications Henri de Fersan. Donc, je répète l'adresse une nouvelle fois. 4 routes de Bournazet, Bellevue, 63 870 Orsines. Et donc, pour le journal de Turner, il vaut 25 € franco de port.
Alors, il est paru ?
Répétez-le.
Oui, j'en ai preuve. Là, vous pouvez le commander. J'en ai un exemplaire sous les yeux.
Répétez une fois à toute vitesse. 4 routes de...
Bournazet. Bournazet.
Comme l'homme à la tunique rouge, mais avec un T.
Bellevue, c'est le lieu dit. 63 870 Orsines.
Vous me permettez ?
Puisqu'on a commencé les annonces, mais voilà. Pas les vôtres, Victoria, je vous rassure. Je vais d'abord donner la parole à Bénédicte Gutiérrez. Mais
J'enchaîne parce qu'il y a eu naturellement plusieurs coups de fil. Dans quelle église se passe le concert ukrainien ? Il y a un auditeur, comme je ne donnais pas de référence, on m'en fournit. Donc on a entendu un Ave Maria de Giulio Caccini. Et donc un auditeur nous indique l'enregistrement d'Ignessa Galante. avec l'orchestre de Lettonie, et il donne les références, c'est Campion Records, RRCD 1335, voilà, et ça se trouve à la FNAC. Alors donc on nous redemande le numéro de téléphone où on peut joindre les représentants des Fedorov à Paris, c'est donc Madame Lostis au 01, alors attention, nous ne le répéterons pas, 01 43 37 86 55, et enfin nous répétons une dernière fois les références du concert gratuit de dimanche prochain, 9 mars à 16h, en l'église Sainte-Rosalie, 50 boulevard Blanqui, Paris 13e, métro Corvisart.
Alors pour montrer qu'il y a une tradition dans cette émission, c'est le malentendu. Et jamais le mot malentendu n'a été mieux adapté que pour une émission de radio, bien évidemment. Parce qu'un auditeur, qui fait un auditeur sévère, et il comprendra ce clin d'œil, nous dit « Là, vous déconnez, chipotez sur le nombre des victimes juives persécutées parce que juives, c'est pas malin, et vous avez tort de rire. » Mais justement, on a bien expliqué qu'il n'y avait aucun chipotage sur le nombre, et on n'a surtout pas ri des persécutions. Il faut, c'est très bien d'être sévère, monsieur, mais il faudrait aussi être attentif. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Il faut obligatoirement prendre le chiffre qui a été retenu par Nuremberg, qui est 5,8 millions, voilà. Et là, on est dans la règle, et personne ne peut dire quoi que ce soit.
Exactement. Il n'est même pas légal, il est obligatoire.
Obligatoire.
Légal, c'est un chiffre légal.
Par loi du 14 juillet 1990.
Voilà, donc ça met un terme à ce débat. Maintenant, je reçois Bénédicte Gutiérrez, que j'ai déjà reçu deux fois dans cette émission. Bonsoir.
Bonsoir.
Et alors, c'était vraiment inattendu de recevoir ce livre de vous, parce que vous avez fait deux bouquins qui sont, des bombes émotionnelles. Un qui s'appelait « Le mal interdit », c'était le premier que vous avez publié en 99, un autre qui s'appelait Noir Corbeau en 2000, et qui était des récits d'une expérience, enfin d'un drame personnel.
Absolument.
C'est-à-dire que vraiment c'était des livres plus qu'émouvants, c'était poignant, c'était déchirant à lire, et ça faisait vraiment monter les larmes. C'était remarquablement fait, tout à fait un très beau de très beaux livres. On les trouve encore, je suppose.
Oui,
l'un
absolument.
L'un est paru aux
oui.
éditions Elikia et l'autre aux éditions Apolline. Et puis là, vous arrivez avec un livre qui, au fond, est dans la continuité des deux autres.
Exactement.
Parce que c'est le fruit de votre expérience que vous racontez.
Oui, c'est en quelque sorte la suite, puisque c'est une partie de mon parcours d'enseignante, puisque je suis enseignante depuis 10 ans et que ça va continuer encore. Je relate le parcours expérimental d'une enseignante parmi tant d'autres, et j'explique de quelle manière je mets en œuvre donc ma propre pédagogie, puisque quand on parle de pédagogie, bien sûr, on ne peut pas dire que c'est une pédagogie générale, puisqu'elle s'applique d'individu à individu. C'est-à-dire, je travaille au nom d'une collectivité, mais au service également de l'individualité de chacun.
Alors, ce qui est très réconfortant dans ce livre, c'est que dans un monde aujourd'hui, on nous dit il n'y a plus rien à faire, les jeunes sont irrécupérables, les enfants sont perdus, on ne peut plus rien en faire, ils sont hyperactifs jusqu'au délire, ils sont incultes, ils refusent de travailler, ils sont colériques, ils sont gâtés, enfin tout, on voit très bien, c'est vrai que ces enfants de ce qu'on appelle les banlieues défavorisées ou de certains milieux moins aisés que d'autres où les parents sont pas à la maison, enfin on connaît tous ce discours, on a des enfants qui sont pratiquement, on a l'impression qu'ils sont incontrôlables, et vous arrivez avec ce livre à démontrer qu'il n'y a pratiquement pas de cas désespérés.
Mais bien sûr que non. En fait, bon, tout est vrai dans ce que vous venez de dire. Hein. Bon, les enfants sont très, très difficiles. Hein. Bon, le monde de l'enfance est un monde bon, qui n'est pas un monde cartésien. C'est un monde où souvent tout est permis, puisque bon, y a la voie ouverte vers le rêve, vers le possible. Les enfants n'ont pas vraiment de repères. Mais quand on y croit, quand on arrive avec pas mal d'outils de créativité, on peut gérer et générer, je dirais, un climat quelquefois qui est fantaisiste. On peut travailler avec les enfants. Il faut y croire, il faut arriver avec une certaine passion et il faut arriver avec des armes. Alors bon, quelles armes ? Quand on est enseignant, eh bien, faut déjà pas arriver avec l'idée qu'on connaît tout. Il ne faut pas arriver avec l'idée qu'on va hisser les élèves jusqu'à soi. Il faut arriver, je pense, avec un peu d'humilité et déjà descendre vers les enfants qu'on a en face de soi, ôter de leur image la notion d'élève, parce qu'avant d'être un élève, les enfants, ça c'est de la matière humaine. Les enfants ont un corps et un cœur, ont une histoire, ont un passé, et il faut travailler avec tout ça. Donc quand on descend, quand on se baisse à la hauteur donc des enfants qu'on a en face de soi, eh bien, on travaille au cœur à cœur, au corps à cœur et au cœur à corps, eh bien, on les rencontre. On leur fait pas peur. On peut travailler vraiment avec eux.
Alors, ce qui fait la valeur de votre récit et de votre expérience, c'est que c'est une expérience complètement enracinée. C'est-à-dire qu'il faut quand même rappeler que dans votre premier livre, Le Mal Interdit, vous racontez votre drame personnel, qui est le drame de la maltraitance. Vous avez vécu une enfance
difficile,
effroyable, on peut dire. Difficile, oui, le mot est faible. Hein. Quand on lit ce livre, on est pétrifié de voir à quel point on peut infliger à un enfant et à son propre enfant des souffrances abominables. Le deuxième livre, c'est votre passage dans les centres pour adolescents,
enfin la DAS,
et donc dans cette espèce de machine qui a été créée pour essayer de...
Oui.
Pourquoi? On ne sait pas d'ailleurs. Est-ce que c'est pour rééduquer, pour remettre d'équerre, pour sauver les âmes?
Eh bien, disons que c'est une machine qui sert à ce qu'on veut, qu'on veut bien faire d'elle. Je veux dire, quand on rentre dans les milieux de la DAS, où on a envie de s'en sortir, où on utilise tous les moyens qu'on a en face de soi pour avancer ou pas. Hein, bon, c'est en fait on utilise les moyens comme on le désire, hein, c'est ça.
Et on voit bien dans Noir Corbeau, je me souviens de ce livre aussi, on voit bien comment c'est vous-même d'ailleurs qui à un moment décidez que cette expérience terrible du foyer va devenir quelque chose de positif. J'ai l'impression que c'est un électrochoc, il y a quelque chose qui se passe en vous et qui fait que vous basculez du refus dans la... pas l'acceptation du système, mais l'utilisation du système. Vous dites, voilà, bon, je vais en profiter, en quelque sorte.
Oui, moi, je dis que toute situation a son côté négatif et son côté positif. Et moi, ce à quoi je travaille, c'est exactement ce que je fais avec mes élèves au quotidien. Je me sers quelquefois de quelque chose, d'un défaut, hein, de quelque chose qui ne va pas chez quelqu'un, pour essayer de le mettre, je dirais, au service de la collectivité. C'est-à-dire pour en ressortir tout le positif.
Mais vous avez l'impression que vous rendez quelque chose qu'on vous a donné ou...
Non, pas du tout. Bon, moi, ce que j'ai vécu, j'ai effectivement une expérience très particulière, hein, dans le monde de la souffrance, on va dire. Ce qui fait que j'ai, je dirais, une approche de l'autre qui est plus très humaine. Très humaine. Donc, je travaille avec les individus sur leurs qualités, sur leurs défauts. J'essaye de chercher avant tout ce qu'ils peuvent offrir aux autres et ce qu'ils peuvent prendre aussi chez l'autre, afin de se construire et d'arriver à progresser et de grandir.
Est-ce que vous avez l'impression, par moment, quand vous êtes au contact de certains enfants, d'être au contact de vous-même au même âge ?
Non. Non, 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 parce que moi j'ai énormément pris de distance, moi, avec l'enfant que j'ai été, hein, bien sûr. Mais c'est vrai que quelquefois, le langage que parlent certains enfants me sert de miroir, bien sûr, puisque je connais certains langages. Hein. Donc, notamment, le langage de l'échec scolaire, le langage de l'anxiété, toutes ces choses.
De la maltraitance aussi.
De la maltraitance, bien sûr. Forcément, mon parcours me rend plus sensible, me rend plus ouverte. Je saisis mieux même des choses qu'on ne dit pas. Les comportements que j'ai en face de moi me sont quelquefois familiers. Ils me rappellent des situations que j'ai vécues autrefois. Mais encore une fois, l'enfant que j'ai été est bien loin de la femme que je suis aujourd'hui.
Où est-ce que vous puisez cette force, cette énergie de faire ça? Parce que vous êtes, il faut dire, physiquement, vous êtes une petite femme. Fluette, enfin,
mais écoutez,
normal, je dirais pas, spécialement une femme fine, très mince, qui ne vous en imposez pas par votre physique. Et c'est quand même extraordinaire d'avoir seulement récupéré de votre expérience, mais en plus d'arriver maintenant à apporter quelque chose à
des enfants. Je vais vous expliquer. J'essaye, quand j'ai des enfants en face de moi, bon, on en a à peu près entre 26 et 30 en gros, hein. Donc il y a à peu près une huitaine d'enfants, c'est toujours à peu près le même schéma. Une huitaine d'enfants qui sont de bons élèves, hein, qui sont très scolaires, qui sont très bien suivis par les parents, Il y a un milieu, je dirais une bonne dizaine d'enfants qui sont très moyens, qui sont sans conviction, qui sont assez passifs, désactivés, voire même, et qui sont assez tristes, qui ont des parents qui s'y intéressent ou pas, ça dépend, hein, mais en tous les cas, ça ne se ressent pas sur l'enfant. Et il y a à peu près une dizaine d'autres, malheureusement, qui sont vraiment à la dérive, qui sont plus que passifs et désactivés.
Alors, est-ce que c'est lié à eux-mêmes ou est-ce que c'est lié à leurs origines sociales, familiales?
C'est lié à plusieurs choses. Alors, c'est lié effectivement aux origines familiales, quelquefois, parce que bon, il y a quelquefois de tels problèmes à la maison que l'enfant a du mal à, je dirais, à déposer son manteau social. Hein. Donc il arrive en classe avec toujours son histoire, il n'arrive pas à la laisser à la porte. Ça, donc, ça compte énormément. Et c'est lié aussi à, je dirais, au paradoxe de ce qu'on lui demande, c'est-à-dire qu'il y a un amalgame. Souvent, on demande aux enfants à l'extérieur de l'école d'être des mini-adultes. C'est-à-dire qu'ils doivent endosser des qualités qui ne sont pas capables d'endosser à 10-12 ans, un enfant, ça doit rester un enfant. On leur demande d'être très mûrs, on leur demande de prendre des décisions, on leur donne des emplois du temps de ministre. Par exemple, le mercredi, j'en ai moi qui se lèvent à 8 heures, qui vont au tennis, ensuite je sais pas où ils vont, mais ils ont cours de peinture.
Oui, ça, c'est un peu,
ils ont des emplois du temps de
ministre.
C'est
relativement nouveau, ça, cette façon de traiter les enfants en singe savant.
Voilà, on leur demande d'être extrêmement actifs. On leur laisse pas la place aux rêves, on leur laisse pas le temps de penser, et même pire que ça, le temps de désirer. Ils ont tellement de choses à leur porter que tout d'un coup ils n'ont plus le temps de désirer, et donc ils sont éternellement satisfaits, forcément,
hein, gavés,
et forcément ils ne peuvent pas répondre à la demande, donc ils goûtent à tout, ils ne sont bons en rien, et ils n'ont plus envie de rien. Donc ils arrivent en classe, ils passent de l'état d'adulte, hein, du mini-adulte, à tout d'un coup carrément l'enfant un peu, je dirais, attardé, puisque bon, qu'est-ce qu'on fait dans une classe quand on est un enseignant ordinaire, je dirais, on a des enfants en face de soi, et on leur demande de se taire, hein, on leur demande de rester à leur place, de pas bouger, on leur demande souvent peu de pensée. C'est clair, hein, on leur demande de faire, je dirais, des exercices de systématisation. Donc on leur demande pas d'être des êtres extrêmement actifs. Donc moi j'essaye de réduire l'amalgame, c'est-à-dire de travailler d'une manière extrêmement active avec mes élèves et de les mettre en situation de créativité constante. Je donne un exemple. Par exemple, bon, moi j'ai un programme déterminé comme tous les autres enseignants en français. Et pour que ce programme suscite, je dirais, des désirs, voire des vocations, on ne sait jamais, hein, on peut toujours rêver, je le travaille sur des projets réels. Donc, je mets en place des ateliers collectifs, des ateliers de groupe, donc, et je leur fais écrire un mini-roman. Voilà un exemple. Ou alors, je fais écrire un scénario de film. Mais
avec plusieurs activités, vous parlez par exemple d'un moment où vous allez faire quelque chose sur le Moyen-Âge. Vous allez donc leur parler du Moyen-Âge, puis vous allez leur faire construire un château fort. Également, vous allez leur faire dessiner des robes. Enfin, des tenues de nobles du Moyen Âge. Vous les emmenez à Cluny. Alors, ensemble, bon, c'est pas forcément nouveau tout ça. C'est ça, ça fait partie d'une tradition.
Ce que je fais, c'est que je dirais l'école active. C'est-à-dire que je transforme le programme en projet réel. Donc, je continue sur ma lancée. Ce que je veux dire, c'est par exemple, si je leur fais écrire un scénario de film, ben, écrire un scénario de film, ça s'improvise pas. Hein, donc, on étudie avant des scénarios. Ensuite, on cherche une idée, une histoire qui intéresse les autres aussi, soit d'abord, mais les autres après. Hein. Et on fait pas que ça, on la met en scène, on la filme, on choisit des acteurs, on fait un casting, donc on s'intéresse à la technique aussi, puisque bon, filmer ça s'improvise pas non plus. On cherche donc des acteurs, on les forme, on apprend un texte, on restitue ce texte. Et on ouvre les portes sur l'extérieur, puisque le travail qu'on a fait, on va l'exposer. on va le présenter. Alors, qui dit présenter un travail, ben dit ça veut dire s'exposer à la critique. C'est la critique, elle n'est pas forcément toujours positive, elle peut être négative, bien sûr. Hein. Donc, ça veut dire se préparer à la vie, tout simplement, parce que bon, préparer ses défenses, c'est préparer ses réponses, analyser un travail et faire des déductions.
Alors, avec cette méthode, quelles sont les réactions? Parce que vous nous disiez tout à l'heure qu'en gros, il y a trois catégories d'enfants. Bon, très gros.
Alors,
hein.
Voilà.
Il y a les bons élèves qui dynamiques,
oui, les élèves,
qui bougent, qui travaillent,
scolaires.
Il y a le marais,
mm-hmm.
Bah, qui sont là, voilà, ils font pas mal tout, ils font pas de scandale ni rien, mais ils sont là à peu près inactifs, passifs et pas forcément passionnés.
Et prêts à tout manger sans tirer parti, on va dire.
Il y a le groupe des cancres, enfin ceux dont on disait de mon temps, allez vous asseoir au fond de la classe à côté du radiateur. Alors comment ils réagissent? Est-ce qu'il y a des différences de réaction en fonction de l'appartenance?
Absolument. Je dirais que bon, souvent quand j'arrive moi avec un projet en réel, un projet que bon, disons un projet qui se veut surprenant. Parce que c'est ça, en fait, l'objectif. Moi, ce que je veux, c'est que mes élèves n'arrivent pas tous les matins en classe pour, pour ne rien faire. Ce que je veux, c'est qu'ils soient partie prenante. Alors, souvent, les cancres sont surpris. Parce que, bon, on leur a donné pas mal d'exercices de systématisation dans lesquels ils ne sont jamais rentrés. Et tout d'un coup, on arrive avec un projet qui me connaît, enfin, bon, qui les étonne. Donc, ils se réveillent un peu. Et ce qui est plus délicat, c'est quand, par exemple, j'arrive avec l'idée d'écrire un scénario, mais le cancre doit se réveiller parce qu'il doit bosser. Il doit fournir des efforts.
Il doit écrire.
Et bon, il suffit pas de rêver, il faut aussi pratiquer et mettre en forme. Hein. Alors là, c'est dur. Donc c'est là où les très bons élèves m'aident. Puisque bon, les très bons élèves accompagnent les cancres dans ces cas-là. Et il y a quelquefois opposition, échange d'idées. Et comme il y a quand même un enjeu, l'enjeu c'est de participer au film de manière totale, c'est-à-dire à un moment donné on va devenir acteur de ce qu'on a fait. On va peut-être devenir acteur de ce qu'on a écrit, mais aussi acteur en réel. On va se retrouver derrière la caméra ou devant la caméra et on va devoir participer. Et ça, je dirais c'est piquant. Ça les intrigue, ça les émerveille, ils connaissent pas, c'est aussi le monde du spectacle. Donc, bon, ça les titille, et forcément, même si c'est difficile, même s'il y a des efforts à fournir, ça fonctionne.
Alors, le résultat, depuis longtemps que vous faites ce genre d'expérience, est-ce que vous avez l'impression que c'est
probant.
Probant, c'est porteur de fruits.
Oui, j'ai des élèves moi qui arrivent maintenant, enfin très régulièrement à l'école, en courant. Il y en a même qui me disent, écoutez, madame, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas le dimanche? Mais le dimanche, je m'ennuie. Donc oui, là, à ce niveau-là, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de rendre ces enfants, je dirais, cultivés. C'est pas le but. Même si j'ai envie de leur apporter des notions de culture évidentes, ce qui m'intéresse, c'est de créer un désir, de susciter l'envie, de donner le désir de grandir et de se construire. Et souvent, je veux dire, la jeunesse délinquante, elle devient délinquante parce qu'elle est sans désir, parce qu'elle n'a pas de repère et parce qu'elle n'est pas, je dirais, accompagnée. Voilà, c'est cette notion-là qui m'intéresse.
Mais
c'est les accompagner.
Vous les avez pendant un an?
Oui, je les ai pendant une année.
Et après, ils retombent dans la routine. Quelle classe?
Alors là, bon, moi, je travaille, j'ai travaillé en école maternelle, et là, je travaille à l'heure actuelle en élémentaire. Hein. Mais,
quelle classe?
Pour l'instant, cours moyen, deuxième année. Donc, je suis à la jonction de la sixième.
Oui, c'est bien,
c'est une classe très importante, parce que souvent, effectivement, bon, moi, je sais ce qui se passe en sixième et au collège. C'est effectivement la routine qui revient, mais... je pense que ce qui est pris n'est plus à prendre. Et comme je travaille beaucoup de choses différentes, je travaille énormément les arts plastiques, je travaille énormément le théâtre. Par exemple, en sport, moi, je fais des ateliers de cirque. Donc, je leur donne pas mal de notions. Et je pense qu'ils peuvent se retrouver dans l'une ou l'autre. Soit dans le théâtre, soit dans l'écriture, soit dans les arts plastiques, soit dans le sport, parce que pour moi tout a de l'importance, hein, c'est ce que je leur explique. J'explique bien à mes élèves que même s'ils sont mauvais en maths, ils sont pas mauvais en tout. Il y a toujours un domaine où on est supérieur à l'autre, que c'est pas grave d'être mauvais en quelque chose. Le tout, c'est s'accrocher à ce en quoi on est bon pour peut-être essayer aussi de remonter enfin de retrouver ce qui ne va pas en mathématiques. Hein. Donc, je travaille, je dirais, par le système du tutorat. J'essaye de retravailler avec mes élèves la notion d'entraide. Par exemple, un enfant qui est très bon en sport, s'il est mis en valeur, il reprend confiance. Et forcément, s'il a en face de lui un enfant qui est seulement qui est bon, je dirais, d'une manière classique en français et en maths, il va générer quand même de l'envie. Il va générer, comment dirais-je, du désir. Donc, il y a la notion d'entraide qui naît là.
Et chacun dans son domaine d'excellence, si j'ose
voilà.
dire,
ils sont se tous mis en valeur.
Obligés, étant donné qu'il existe, ils se sont poussés à faire bénéficier les autres.
L'autre de ce qu'il sait. Ça,
et l'autre en contrepartie va le faire bénéficier de alors, son domaine d'excellence à lui. Mais
à partir du moment où on a où on donne, je dirais, à la notion de rêve, à la notion de créativité, on lui redonne tout son espace, même si en sixième l'enfant retrouve une certaine routine. C'est plus jamais la même routine, parce qu'il a connu autre chose. Il a connu une expérience qui lui a ouvert, je dirais, les yeux sur l'extérieur. Moi, c'est ce que je fais, par exemple, la classe à la porte ouverte sur l'extérieur. Moi, très régulièrement avec mes élèves, on s'en va dans la rue. On va travailler, en ce moment, on travaille avec une maison de retraite, notamment. Donc, nous avons tourné un film avec des personnes âgées, qui ont donc entre, je ne sais plus, moi, 70 et 90 ans. Et les enfants, donc, ont pu découvrir que à une époque où le jeunisme... Et je dirais, sacralisé, elles ont pu découvrir que des personnes âgées avaient énormément de choses à offrir. Et que même, quelquefois, elles étaient plus dynamiques que des enfants de 10 ans.
Quelle est la composition ethnique moyenne de vos classes?
Vous êtes dans quel quartier?
Alors, en ce moment, je suis dans un quartier très privilégié. J'ai travaillé 5 ans en zone d'éducation prioritaire. Et là,
quel endroit?
Alors, je suis à la Garenne-Colombes. En 92, il y a eu pas mal de problèmes récemment.
Oui. Il y a collège qui s'est mis en grève.
Voilà. Ouais. Bon, moi, je travaille justement, je dirais à un quart d'heure de ce lycée-là. Et je travaille avec la maison de retraite qui est située juste en face de ce lycée. Et je dirais que c'est un milieu très privilégié quand même, la Garenne-Colombes, malgré les problèmes qu'on a pu entendre.
Les problèmes viennent de villes voisines.
Voilà, c'est si pas. Si
vous permettez de les appeler des problèmes.
C'est pas vraiment la Garenne.
Mais vous avez eu les expériences personnelles, vous avez eu des classes très, très mélangées.
Oui, parce que je travaille en zone d'éducation prioritaire, moi.
Alors, est-ce que la réaction, pour parler très clairement, est-ce que la réaction des enfants français de souche. Est différente de la réaction des enfants d'origine étrangère.
Elle est différente, mais moi je dirais que la demande n'est pas la même. Je dirais que la demande elle est plus forte, je dirais, en zone d'éducation prioritaire où justement il y a un mélange d'ethnies, parce que les enfants à la maison ne connaissent pas moi tout ce que je leur propose, ou alors le connaissent mais d'une manière, très lointaine. Donc elle est plus forte. Les enfants vous suivent beaucoup plus, mais là où je suis à l'heure actuelle. Comme moi je travaille d'une manière qui n'est pas du tout classique dans ma classe, les enfants me suivent aussi. Je veux dire, il n'y a pas tellement de différence. En revanche, il est vrai qu'une enseignante se sent certainement plus utile en zone d'éducation prioritaire que dans un milieu privilégié, même si on est toujours utile au fond.
Dernière question, comment est-ce reçu par l'institution ?
Par l'institution. Alors, je dirais que par l'institution purement scolaire, c'est-à-dire dans le cadre des établissements, moi je fais assez peur parce que c'est vrai qu'il est plus difficile de travailler comme je travaille à partir du moment où, j'arrive pas en classe avec un livre ouvert et je ne suis pas des exercices qui sont forcément imprimés d'année en année et qui sont quasiment toujours les mêmes. Donc je renouvelle constamment... mon travail tous les ans et j'essaye de m'adapter aux classes que j'ai en face de moi. Donc ça suscite, je dirais, des inquiétudes, c'est clair. Hein.
Les parents ?
Alors, en revanche, les parents me suivent énormément. Les parents sont toujours intrigués par ce que je fais et par le résultat. Parce que, comme je disais, ce que je pratique avec les élèves, débouche sur des projets réels. Donc quand on fait un film, il y a un résultat. C'est-à-dire qu'il y a une cassette vidéo. Quand on organise une émission de radio, parce que ça m'est arrivé, il y a un résultat. On l'entend. Elle est diffusée, cette émission. Quand on écrit un mini-roman, pareil, il y a un résultat. Le mini-roman, il est lu. Hein, il est partagé. Et pareil pour des pièces de théâtre, elles sont, il y a des spectateurs, donc elles sont jugées et elles sont jaugées.
Merci Bénédicte Gutiérrez. Alors, votre livre s'appelle « Carnet de route d'une enseignante » et j'indique la bande. Avec un peu de créativité et de bienveillance, on peut emmener les élèves au bout du monde. J'aime beaucoup le mot « bienveillance » parce que c'est un mot qu'on oublie complètement. On ne parle plus du tout de bienveillance. Et c'est vrai que je crois que les meilleurs souvenirs, enfin les profs dont j'ai gardé le meilleur souvenir, sont des profs qui étaient bienveillants.
Oui,
ils donnaient de la gentillesse, de nous aimer.
Oui, et de la gentillesse, ouais, c'est ça. Voilà. Enfin, avoir peur de dire à ses élèves qu'on les aime, en fait.
C'est un livre, il ne faut pas croire à travers notre conversation que c'est un livre technique, c'est un livre qui est plein d'anecdotes.
C'est
le carnet de route d'une enseignante que Bénédicte Gutiérrez raconte sa vie au jour le jour, ses contacts avec les enfants. Il y a des anecdotes très très drôles, il y a des personnages, je pense Harry par exemple, qui intervient à un moment, est un personnage assez étonnant.
Oui, le jeu d'échecs.
Oui, alors là, il y a une expérience, le récit d'une expérience pédagogique avec un jeu d'échecs qui est c'est formidable, vraiment, c'est passionnant à lire.
C'est aux éditions
du Dauphin.
C'est aux éditions du Dauphin, nos amis du Dauphin.
14,95 €. Je dirais qu'en fait, ma pédagogie est basée sur une phrase de Montaigne, tout simplement. J'aurais bien aimé avoir écrit cette phrase. Si l'enfant n'est pas un vase qu'on remplit, c'est un feu qu'on allume.
Merci Bénédicte Gutiérrez. Qui a écrit avant.
Le mal interdit, on nous le demande, interdit et Noir Corbeau, qui traite de la DAS. Oui.
Voilà, je crois qu'on est au bout de notre temps d'antenne.
François de Chasset présentera son livre Récits de chasse au Laos. Il parlera du Vietnam catholique d'aujourd'hui et de son ami Pierre Guillaume. 165 rue Jeanne d'Arc, vendredi 7 mars à 18h.
À la bibliothèque Jeanne d'Arc.
À la bibliothèque Jeanne d'Arc, bien sûr.
Merci Patrick, merci Bénédicte Gutiérrez, merci Pierre Descaves. Il n'y a plus de temps pour les annonces, tant pis, on s'en passera. Merci mon cher Henri de Fersan, je vous taquine toujours, mais vous savez que vous êtes un peu mon fils surnuméraire. Et puis à samedi 8, à Grand Maison, c'est-à-dire à Villepreux, pour la journée organisée par Bernard Anthony et les associations qu'il préside et qu'il a fondées, journée d'amitié française. Nous y serons à 14h et jusqu'au soir où nous dînerons en musique. Bonne semaine, que Dieu nous garde.